Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, après une petite pause de vacances, eh bien on va parler de Little Nightmares 2, de Ghost and Goblins Resurrection, et d'un revenant qui débarque sur PS4 qui s'appelle Dying Young, et je vais essayer de comprendre ce jeu. Je compte sur toi Patrick. Et évidemment, le reste du programme, vous connaissez le comme la chronique de Jérémy Kletskin. Et je commence en accueillant, c'est toujours un plaisir, deux de mes chroniques heureuses favoris, Julie Le Baron. Salut Julie.
Salut Erwan, salut à tous.
Comment ça va?
Bah écoute, très bien, très contente de vous retrouver quoi.
C'est cool. Et Patrick Elio, salut Patrick.
Salut Erwan, salut Julie, tout va bien?
Ouais.
Cool.
J'attends beaucoup de cette émission de ta part, Patrick.
Ah bon, et pourquoi même, tu me...
Mais parce qu'il y a deux jeux, Il y a deux jeux qu'il va falloir m'expliquer.
Et ben on va en parler. On est là pour ça. On est entre nous. Discuter.
On va commencer avec toi, Patrick, parce que tu as un nombre de sujets à aborder.
Bah oui, on a deux semaines. On a eu deux semaines sans se voir, sans se parler. Donc moi, j'ai accumulé. Je vais faire un petit tri. Allez, je commence par une news qui a fait pas mal bruiter il y a quelques jours maintenant, parce que ça passe vite. Bah, c'est l'annonce d'un jeu Goldorak qui va arriver chez Microids. Microids qui travaille avec Dynamic Planning, qui doit être détenteur des droits, donc du fameux Goldorak, ce dessin animé culte qu'on a tous suivi dans les années 70-80. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Après, bon, bah ça fait un petit peu peur. On se demande ce que ça va donner. Microids, ils sont coutumiers des licences. Ils ont fait des jeux Astérix, Black Sad. Il y a un jeu Tintin qui est prévu. Ils ont Oddworld aussi en édition. Avec donc du coup des succès plus ou moins réussis selon les cas de figure. On se rappelle du Black Sad qui n'avait pas été très concluant, Astérix, il y a des bonnes choses, mais bon, à voir. Là, il s'attaque quand même à un truc assez mythologique, mythique en France notamment. On sait que Goldorak, ça a été un vrai carton. Ça a été, on va pas refaire tout l'article, mais c'est vraiment le coup de départ de toute la culture manga qui arrive en France. C'est un monument de pop culture. Très peu d'informations, pas de date de sortie évidemment pour le moment. On sait juste que, je regardais le communiqué de presse, ça va être un jeu d'action. Voilà, c'est la seule chose que j'ai vu passer. Ok. Alors après, moi, on parle de Goldorak, on sait qu'il y a déjà eu des choses. Après, c'est particulier, c'est que Goldorak a une importance très, très, vraiment très capitale, notamment en France, en Italie, parce qu'on a une vision un petit peu différente. C'est vrai que le Goldorak, ce personnage au Japon, il est très secondaire, il fait partie d'un univers de robots géants bien plus vaste et il est finalement très très mineur au Japon par rapport à ce qu'on a connu nous en France. Alors je sais qu'il était intégré à un jeu de shoot en arcade il y a quelques années. La question c'est comment t'adaptes ça en jeu vidéo en fait. Moi j'ai pas forcément la solution. On en parlait un petit peu sur Twitter parce que ça a fait évidemment très réagir. C'est viscéral quand on parle de Goldorak pour notre génération. Moi j'imagine un jeu un peu somme avec un peu une composante RTS quand tu dois tu dois défendre la base un peu. Il ferait presque du shoot quand tu es en mode spatial. Il ferait presque du combat un contre un quand tu as les combats de robots contre le Golgoth. Enfin, il y a des tas de choses à faire. Peut-être même un peu de visual novel, un peu de point and click. Pourquoi pas? Il faut une expérience somme. Bon, après, on va se calmer. On va attendre de voir ce qui arrive. Mais bon, attention, sujet très délicat, très, très sensible chez certains. Donc, on va suivre ça de près. J'enchaîne sur du hardware. On l'attend tous ou pas, ça dépend. Cette console Amico, Amiibo, oui. Le même combat, l'Amico. Donc cette console griffée à une télévision qui avait été annoncée il y a déjà un moment. On en avait parlé, je me rappelle, en présentiel. Ça fait un petit moment. On avait discuté de cette console qui arrivait avec. Cette idée de reprendre l'esprit Intellivision avec du jeu casual, du jeu pas très cher, on parle de jeu à 3 ou 10 dollars, un look assez rigolo. Là, je suis allé voir ce matin, je refaisais mon check sur le. J'ai vu qu'il y avait une édition premium finition bois qui a été annoncée collector. Donc, on voit bien qui est visé dans tout ça. Hein. On va pas se leurrer.
Oui, là, t'as bien résumé. T'as bien résumé quand t'as dit on l'attend tous ou pas.
Bon, moi, je suis assez dubitatif. Hein. Après, on sait qu'il y a un Earthworm Jim 4, je crois qu'il y en exclut dessus, il me semble. Il y a quelques titres, il y a plusieurs, voilà, toute une vague de jeux qui doivent l'accompagner. Bon, en tout cas, voilà, l'info, c'est qu'on c'est Core Media qui va charger la distribution et on a une date du 10 octobre donc, qui est calée. Donc, bon, on en reparlera peut-être ou pas, on verra selon ce que ça donne. Et puis, je termine sur des nouvelles de chez Sony. Alors, on attendait des infos du PSVR 2. Alors, c'est confirmé, il y aura bien, on le savait, ça bruitait, mais je crois que ce n'était pas acté officiellement. Sony l'a confirmé, il y aura bien une deuxième génération de casques VR pour cette fois dédié à la PlayStation 5. Voilà, c'est acté, on sait qu'il va arriver. Alors pareil, il y a quelques petites infos qui passent, pas de visuel, tout ça, mais on sait que ce n'est pas pour cette année, ce n'est pas sur 2021. Ouais. Ça se comprend, hein. Il n'y a pas de console sur le marché, donc ça serait un peu dommage de sortir le casque alors qu'on ne peut pas s'équiper en console. Donc ça sera probablement l'année prochaine. Ce qu'on apprend, c'est qu'il va utiliser une nouvelle manette VR, c'est qu'on va ranger enfin les fameux sticks. Voilà, exactement. Ils prennent leur retraite et il fallait, hein, sur la VR, c'était un peu approximatif. Mais ils nous ont bien dépanné. Attention, ça faisait aussi partie du package de dire on a une VR accessible, vous reprenez vos anciennes manettes. J'ai rien contre ça. Mais là, ils vont sûrement partir en retraite sur une nouvelle manette avec des nouvelles fonctionnalités sans fil, hein, DualSense.
Ah, peut-être plus proche de ce que fait Oculus pour les Quest et tout ça. Ouais.
Et puis certainement l'intégration du fameux retour de force, hein, du côté sensitif qu'on a sur les manettes PS5. Ça va être, je pense, intégré.
Ouais, non, si on commence à avoir du drift sur les manettes de VR, ça va pas.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais il y a du drift sur les PS5. C'est bon, on en reparlera peut-être. Mais ça, et puis une info importante, c'est un unique câble permettant de profiter d'une expérience visuelle haute fidélité, d'après Sony. Mm-hmm. Alors bon, il y a quand même un câble.
Ouais, j'espérais du 100 câbles. Bon, c'est vrai que c'était compliqué à mettre en place, je me souviens, le PSVR premier.
Il y a 36 câbles, c'est vrai que c'est assez oui, c'est embarrassant. Tu joues, tu as les câbles, quand tu te lèves, tu prends les pieds dedans.
Toi, ouais.
Bon, il y aura un seul câble, c'est toujours ça de prix, mais bon, il y aura toujours du câble, certainement l'année prochaine. Mais bon, c'est bien, en tout cas, je crois qu'il n'y a pas de titre annoncé officiellement dessus. Moi, j'espérais qu'un Resident Evil 8 aille dessus, mais pour l'instant,
ouais,
je crois que c'est pas confirmé.
Ça a l'air d'être prévu. Hein. Ouais.
C'est dommage. Moi, ce que j'espère, évidemment, c'est d'avoir une expérience tout simplement à la même qualité que ce qu'on a à l'écran, en fait. Ça serait le but, hein, c'est d'avoir une définition quand tu te mets le casque, de ne pas avoir ce côté... vous savez, quadrillage, pixelisation, parce que aujourd'hui, quand on passe un jeu, je pensais à Hitman 3 par exemple, c'est quand tu te mets le casque, tu sais que tu vas faire un compromis en termes de finition, de qualité de rendu. C'est bon, clair. Maintenant, tu le sais, ça fait partie du jeu. Moi, j'espère que sur la prochaine génération, on aura un rendu idem, identique, avec la valeur ajoutée de la VR, la présence physique, tout ce qui est là. En tout cas, ce qui est génial, c'est de se dire que voilà, Sony lâche pas l'affaire, ils vont poursuivre sur la VR, on imagine, à un prix accessible, hein, comme sur la première génération. Donc, c'est très cool. Et puis, bon, une autre news, hein, chez Sony, mais ce n'est pas du tout une surprise, c'est Gran Turismo 7 qui est repoussé à 2022. Bon, voilà, on ne peut pas dire que c'était une grande surprise. On se doutait un petit peu, ça fait partie des marronniers.
Un Gran Turismo repoussé,
mais oui,
je ne comprends
c'était
pas.
C'était même inquiétant qu'il sorte trop tôt. Hein. Moi, je me disais, c'était oula, c'est chelou. Non, mais c'est très bien, il est repoussé. Et puis, bon, ça fait partie un petit peu des marronniers chez Sony. C'est normal,
mais
ils prennent leur temps.
Je voulais juste revenir rapidement sur le PSVR 2, parce que c'est. En fait, ça reste quand même un énorme succès matériel de la PS4.
Plusieurs
millions d'exemplaires.
Puis
ça reste quand même. Oui, ça reste l'ambassadeur des jeux VR. Enfin, aujourd'hui, c'est les jeux VR, c'est grand public, c'est
grand public.
PSVR.
On se comprend.
Oui,
grand public,
sûr.
Relativement à la VR, on est bien d'accord.
Mais et donc, c'est intéressant d'avoir un objet qui va être un objet de jeu vidéo. Enfin voilà, c'est pas, on n'est pas dans, on n'est plus finalement dans cet effet d'annonce, dans cette première vague où il fallait faire un casque VR parce que c'est tendance, parce que c'est l'avenir, parce que le bullshit marketing qu'il y avait autour de la VR à l'époque. Aujourd'hui, ça reste quelque chose qui a fait ses preuves, qui peut permettre de faire des expériences originales. Et c'est vrai qu'avec la puissance de la PS5 au bout du casque, ça peut donner quelque chose de convaincant. Et Moi, j'avoue que autant j'ai été dubitatif à l'époque de la PSVR, mais ce PSVR 2 me semble très cohérent, en fait.
Bah, le message du PlayStation Blog le dit, en fait, on a appris. On a appris pas mal avec première génération. Ouais. Et ça, effectivement, tu te dis, waouh, une V2, bah justement, on va sûrement écarter pas mal de petits problèmes. Et puis, en termes de rendu visuel, ça peut être intéressant. Puis, on espère que les éditeurs vont suivre aussi. Parce que, en tout cas, ça bouge encore. C'est vrai qu'on parle moins de la VR actuellement. Il y a moins d'actualité, on va dire, en termes de gros titres. Mais ça bouge encore. Et c'est vrai que le fait que Sony soit encore là, c'est encourageant. Ça fait envie.
Non, mais comme toi, j'espère que on n'aura pas trop de downgrade graphique dans le casque, mais aussi qu'il y aura un répertoire étoffé, quoi. Parce que moi, ce que j'attends, c'est les jeux derrière. Et j'ai quand même eu des expériences formidables avec le premier PSVR, quoi. Enfin, on avait parlé de Paper Beast, Tetris Effect, qui était fabuleux, et puis Resident Evil 7. Et j'espère qu'on aura pas mal d'expériences proposées.
Quand tu vois le phénomène PS5 actuellement en termes de catalogue, ça fait peur. Parce que tu te dis, oui, t'as une technologie qui débarque sur le marché. Déjà, bon, elle est dure à trouver, mais même en termes de contenu, ça tarde à arriver quand même. On ne peut pas dire que le catalogue se remplisse à vue d'œil. Et je me dis, si c'est pour ça que je pense aussi qu'ils prennent le temps pour le lancer. Là, c'est juste une première annonce de confirmation et de un peu de promesse de ce qui va arriver. Mais prenez le temps, puis il faut que le catalogue se remplisse bien, quoi. Parce que moi, j'ai pas envie de rejouer à des jeux PSVR 1 dessus, quoi.
Faut qu'ils proposent des trucs derrière, quoi.
Voilà, qu'on ait quelque chose.
Là où je suis un peu pas d'accord, c'est que les jeux PSVR 1, en tout cas les jeux PSVR première génération d'une manière générale, permettent d'avoir une base ludique qui n'existait pas à l'époque de la sortie du PSVR. C'est-à-dire que le PSVR 2, il sort avec Beat Saber, il sort avec
Je te parle en tant que possesseur du premier modèle,
tout comme je
te parle de la PS5 en tant que possesseur de la PS4. Alors, je suis d'accord. Oui. Quelqu'un qui achète une PS5 aujourd'hui, évidemment, il a tout le bac catalogue PS4 même en occasion. Enfin, donc on est complètement d'accord. Ce sont des cas de figure différents. Moi, je te parle en tant que possesseur. Il me faut une plus-value. J'ai envie, mais je pense que Sony va appuyer sur tous les curseurs et va y aller à fond. C'est le but de la manœuvre. Ouais. Hein. Mais il faut effectivement.
On pourra peut-être jouer à Half-Life Alyx. Voilà, par exemple. On n'a pas pu toucher. Julie, t'étais tombée sur une histoire sur le site Polygon, je crois.
Ouais, alors moi, c'est pas vraiment une news, c'est plus une lecture que j'ai trouvée vraiment intéressante. C'est un article qui est paru le 21 février sur Polygon et qui parle en fait de l'adaptation cinématographique, enfin donc en film d'animation de Secret of Monkey Island. Et en fait, le projet avait été déjà révélé en fait à l'occasion de la sortie de l'édition spéciale sur PC. En fait, il y avait des extraits du storyboard, donc on savait que ce projet existait, mais on savait pas réellement ce qui s'était passé là où tout avait, enfin, la direction que ça aurait pu prendre. Et donc en gros, c'est David Carson, donc qui était un peu le directeur de projet qui travaillait donc chez ILM et qui revient en fait sur toute la jeunesse du projet avec plusieurs employés d'ILM et qui raconte donc comment lui est venue l'idée donc alors qu'il jouait avec son fils parce qu'il avait un petit discount spécial en tant qu'employé, il pouvait avoir les jeux moins chers.
Ah, le storytelling.
Ouais, non mais c'est ça quoi. Qui jouait avec son fils et qui se dit mais ce jeu, en tout cas Secret of Monkey Island, le premier, pourrait faire un excellent film. Et très vite on lui conseille d'aller voir du côté d'Amblin, de discuter avec Steven Spielberg, rien que ça, quoi. Et le début, se passe...
Il connaît bien LucasArts et compagnie, donc c'est clair.
C'est ça, en plus, il devait être le producteur du film. Et au début, ça commence de manière très enthousiaste. Il commence à écrire l'histoire, il serre la main à Spielberg, il se dit « Ok, à partir de là, ma carrière a atteint son pic, tout va être pire à partir de ce moment ». Et donc tout le monde se réjouit du projet, il travaille pendant des semaines en fait sur l'élaboration d'un scénario, donc qui est très librement adapté du 1. Et du jour au lendemain en fait c'est des gros problèmes en fait de discussion, quoi, avec d'un côté les gens qui sont à fond sur le jeu, sur l'univers du jeu, et de l'autre côté plus le monde des producteurs hollywoodiens qui comprennent pas grand chose et qui commencent à dire mais pourquoi est-ce qu'on mettrait un pirate en héros, pourquoi est-ce qu'on ferait pas quelque chose sur les singes de Monkey Island, et
un spin-off.
Non mais voilà, il y a une incompréhension totale qui finit par surgir en fait Spielberg justement souhaite faire un film focalisé sur les singes, quoi, et eux ne se reconnaissent
pourtant,
plus dans le projet.
C'est étonnant parce qu'il est joueur en plus, enfin il a fait
étonnée en lisant ça.
Tu vois, c'est quand même son pote Lucas qui a validé tout ça, qui a produit le jeu chez Lucasfilm Games. C'est étonnant.
Ouais. Et donc voilà, c'est une histoire un peu triste, mais c'est vraiment très intéressant en fait de voir que, enfin, ça fait réaliser aussi que Les adaptations de films adaptés de jeux vidéo constituent en soi des petits miracles, enfin des miracles qu'on n'attend pas. Hein. C'est sûr
pas
que moi, j'attendais pas Hitman. Mais pour que ça puisse voir le jour, ouais, il faut de l'argent et il faut une envie créative derrière, quoi.
Oui, que ça voit bien le jour, parce que effectivement, mais c'est dommage. Il y avait tellement. Après, on sait que Pirates des Caraïbes, il y a une parenté aussi avec le premier film.
Ils reviennent justement sur les rumeurs au sujet de Pirates des Caraïbes. Enfin, en tout cas, je vous conseille vivement la lecture. C'est très édifiant. Cool.
Y a une autre news sur un jeu dont on a parlé dans les attentes 2021, avant de le sortir des attentes 2021 parce qu'il était repoussé. C'est Hogwarts Legacy qui, là, revient un petit peu dans l'actu sur un truc un peu chelou quand même.
Un peu chelou quand même, ouais. Ouais, bah donc, on a appris. Déjà, il y avait quand même une bonne partie des joueurs, une bonne partie des joueurs qui s'étaient déclarés enclins à vouloir boycotter le jeu, ne serait-ce que pour pas enrichir plus J.K. Rowling, dont on ne présente plus les positions transphobes, quoi. Ouais. Et là, récemment, donc, c'est Liam Robertson, donc, qui travaille pour Did You Know Gaming, qui a révélé que Troy Levitt, donc, qui est le lead designer du jeu, avait une chaîne YouTube. Alors, j'avais envie de dire une chaîne YouTube plutôt confidentielle, mais c'était quand même 26 000 abonnés. Où, donc, en gros, on apprend que c'est un antiféministe pro-Gamergate qui a fait de longues séries de vidéos sur le sujet, quoi. Et le truc qui est le plus étonnant dans tout ça, parce que donc les vidéos remontent quand même, c'est qu'il a été révélé en fait que Troy Levitt avait dévoilé l'existence de sa chaîne à Warner Bros, qui n'y voyait aucun souci et qui derrière s'est fendu d'un communiqué de presse pour dire que non, enfin nous on a à cœur d'être inclusif, etc., etc. Vous inquiétez pas pour ça. Donc à surveiller, quoi. Mais forcément, ouais, mon attente commence à s'étioler un peu là.
Non, mais
mon enthousiasme
lead,
en tout cas.
Non mais le lead designer de Hogwarts Legacy est un YouTuber alt-right pro Gamergate. C'est
Et surtout, enfin, ils le savent et ça pose aucun problème. Il y a vraiment ce truc-là.
Mais je l'ai mis dans mes attentes 2021.
Alors, mais moi, tu sais que j'avais mis Cézanne dans mes attentes aussi. Hein. Il y a des trucs jusqu'à ce que les affaires sortent et tu te rends compte, mais merde, quoi. J'ai pas envie de participer
ouf,
à ça.
C'est ouf. C'est complètement taré. Après, je ne sais pas. Je dis pas qu'il faut... Le mec, il fait ce qu'il veut. Il est youtubeur alt-right pro-Gamergate, il fait ce qu'il veut. Enfin, tu vois, c'est sa life et tout ça. Mais après, de la part de Warner Bros. Sur un truc comme ça, c'est quand même une énorme licence. Je mets quand même aussi des réserves. Quand un mec comme ça est lead designer, je n'ose même pas...
Ça pose pas de questions.
Enfin, après, on se pose des questions sur comment se passe le développement du jeu. Enfin,
c'est ça.
C'est un truc... Enfin, c'est aussi une problématique. Enfin, je sais pas. Ça m'a totalement coupé les pattes.
Surtout qu'il est pas. Il a beau ne pas avoir publié de vidéo depuis un moment, il est pas vraiment sorti de sa rhétorique alt-right, quoi. Parce qu'en gros, ce qu'il explique, c'est que donc Warner Bros était au courant de sa chaîne, mais donc selon lui, hein, je reprends ses propos, ils sont plus intéressés à l'idée de faire des bons jeux que d'avoir un agenda de SJW. Enfin, en gros, c'est ce qu'il dit, quoi. Il continue de tenir ce genre de propos aujourd'hui, quoi.
Ce qui est ouais. Et puis après voilà, c'est dans, quand on parle de ProGamerGate, c'est aussi évidemment de l'anti-MeToo qui est selon lui la rhétorique de l'alt-right qui est MeToo est une panique morale, etc. Enfin c'est assez incroyable. Enfin moi j'avoue que cette nouvelle là m'a un peu scotché. On verra bien. Le com des coms d'il y a deux semaines. Alors, je vais passer sur le fait que Startup Nation est un nom, est une marque déposée qu'on n'aurait pas dû utiliser. Pardon, Jérémy, nos excuses les plus plates. Je vais aussi passer sur le fait qu'il y a eu plein, évidemment, qu'on n'a pas abordé parce qu'on était très content d'avoir joué à Comp, qui est une vision très rigolote de ce système où on joue la balle de Pong. On n'a pas signalé que, évidemment, Pong, mais vous êtes la balle, a été et depuis longtemps un sujet de Game Jam et il y a plein de jeux qui reprennent un peu ce principe-là que nous n'avons pas cité, mais vous pouvez aller voir dans les forums de Science on Joue les jeux qui ont été cités pour ça. Je prends quand même juste le commentaire de Kipo qui nous dit Nuts, parce qu'on parlait de Nuts, donc ce jeu Visuelle à l'écureuil. Nuts, c'est typiquement un jeu que j'ai acheté sans réfléchir après avoir maté le trailer sur Steam et j'ai vraiment adoré. Après, le rapport évident avec Firewatch s'est fait ressentir jusqu'à la toute fin du jeu qui, dans les deux cas, m'a laissé sur ma faim, mais cette enquête peu ordinaire sur la trace de ces rongeurs des forêts m'a tenu en haleine pendant les quelques heures qu'il propose. Personnellement, je ne vous rejoins pas sur la question « le jeu doit-il être fun ?» mais dans ce cas, pour moi, c'est une fois de plus la question du prix. La question ridicule se pose-t-il comme question du prix qui peut se poser qui avait déjà été le cas à la sortie de Firewatch. Une fois le jeu terminé, je n'ai pu m'empêcher que c'était un poil cher pour une si courte expérience. Puis je me suis dit que je soutenais de cette façon les développeurs avant de réaliser que le jeu avait été sur Apple Arcade avant Steam, donc ils n'avaient pas forcément besoin du soutien des joueurs. Voilà. Et il pose la question, est-ce que c'est encore une question, la question du prix par rapport à la durée de jeu. Qu'en pensez-vous dans ce cas précis? Alors, je précise pour remettre en contexte, Nuts s'est vendu aux alentours de 17€ sur Steam et il est disponible dans la bibliothèque Apple Arcade. Hein, donc, c'était un jeu qui faisait partie de l'Apple Arcade.
Y a-t-il un style Apple Arcade? On pourra se poser la question aussi un jour. Un style, est-ce qu'il n'y a pas une école aussi qui se dégage?
Ouais, c'est... J'avoue que c'est compliqué cette histoire du prix. C'est plus,
c'est plus une question de mood. On en a parlé, hein. C'est une envie de se lancer dans un jeu comme ça, une expérience un peu éthérée, un peu.
Fait par des petits développeurs. Enfin, moi, j'avoue, j'étais assez contente hein, de payer pour ça. Pour le coup, enfin, c'est vrai que c'est une expérience assez courte, mais ce que je trouve assez admirable dans ce jeu, c'est qu'à aucun moment il ne fait de fausses promesses. Enfin, c'est instantanément. Il suffit de regarder la bande-annonce pour savoir si c'est pour vous ou pas. Enfin, moi, je me suis dit, j'ai hyper envie d'espionner des petits écureuils, et c'est ce que j'ai eu.
La bande-annonce surjouait un petit peu l'action. Je crois qu'à un moment, tu avais une course-poursuite, tout ça. Hein. Il me semble, hein, où tu disais, il y a se passer des trucs, machin.
En tout cas, au bout de 5 minutes, tu as le mood général du... Enfin, en tout cas, tu joues 5 minutes, tu as le mood général du jeu, tu sais ce que tu vas avoir, quoi.
Ah, c'est clair. Mais ouais, la bande-annonce, moi, justement, elle m'avait envoyé plus de, tu vois, d'action, plus de, de surprises, de trucs. Bon, après, c'est une question.
C'est peut-être la comparaison avec Firewatch aussi qui est peut-être un peu exagérée. Enfin, forcément, on y pense, mais c'est pas du tout une expérience narrative comme Firewatch. Mais pour le coup, je pense que c'est. Il faut aimer l'espionnage d'écureuils. Mais il faut aimer les écureuils.
Il n'y avait pas un film Firewatch, d'ailleurs, qui était prévu ou annoncé.
Ouais, ça me dit rien, là.
Bon. Mais juste pour dire que 17€, enfin, dans la catégorie des jeux aux alentours de entre 15 et 20€. C'est un tarif un peu classique sur Steam. Ça a rien de choquant pour une vraie prod, en tout cas fait avec une vraie équipe derrière. Que là, c'est aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. On en a parlé plein de fois, notamment avec Corentin qui défend ça bec et ongles sur les jeux courts. Parce que aussi, il y a eu toute une époque où il y a eu une inflation de la durée de vie artificielle des jeux. Moi, je suis beaucoup plus séduit par une expérience compacte. C'est-à-dire que où chaque niveau, où chaque nouvelle proposition, bah, c'est un nouveau niveau, c'est une nouvelle construction. Ce qui est le cas dans Nuts, même si certains peuvent regretter la proposition elle-même, mais à chaque fois qu'il y a un nouveau niveau dans Nuts, c'est quelque chose qui est pensé, c'est pas un truc qui va te faire gagner 3 points d'expérience pour avoir une arme plus puissante et ouvrir un coffre légendaire. C'est une vraie expérience compacte. Donc dans ces cas, c'est compliqué de dire que c'est trop cher. Je trouve que c'est vraiment c'est une construction, c'est un prix qui est raisonnable dans ce cas-là. C'est l'heure de commencer avec les jeux vidéo et on va partir sur une sortie Switch. Une sortie de Switch, une licence mythique. Hein, t'as déjà utilisé ce mot une fois dans le jeu, dans cette émission. Donc,
on peut plus là du coup. Petit stock en fait, j'en avais une vingtaine sous le coude. Là, je peux plus alors.
Ah bah non, il va falloir falloir trouver de la paraphrase, monsieur.
Hein, d'accord.
Il y a du boulot. on va parler de Ghosts and Goblins Resurrection.
We'll be right back.
et c'est le moment de retrouver Arthur et sa tenue légendaire, pour le coup, j'ai pas dit mythique.
C'est-à-dire le dictionnaire des synonymes pour Patrick.
C'est-à-dire son caleçon à cœur et son armure...
À fraise, pardon.
Eh
oui, attention, oh là là, je coupe tout de suite. Hein, excuse-moi, il y a eu une interview de Tokuro Fujiwara, qui est le chef d'orchestre mythique de... Ah, pardon, de Ghosts and Goblins, qui a précisé dans une chouette interview qui est sortie chez Polygon il y a quelques jours, là, en même temps que la sortie du titre, qui revient là-dessus, sur ce détail, qui dit que ce sont des strawberry et que voilà, c'est
tout à fait. Les choses sont dites, lequel sont à cœur. Et cette armure qui a une légère tendance à partir en cacahuète, à s'envoler petit morceau par morceau, pour nous laisser quelque peu désemparés face à une horde d'ennemis qui, eux, ne le sont pas. J'avoue, alors je vais tout de suite évoquer rapidement mon expérience de jeu. Ça, je te laisserai la parole. J'ai lancé le jeu au niveau le plus facile, après ma...
Normal, c'est oui.
Laquais, je crois, ça s'appelle. Hein,
c'est, ça me semble, ouais. C'est pas très reluisant quand tu le lances.
C'est pas très, très reluisant. On te fait bien sentir que bon, c'est quand même un niveau facile. Ce n'est pas du tout un niveau facile. Hein,
mais pas du tout.
Voilà. Le seul truc, c'est que tu ne recommences pas au début du niveau quand tu meurs. C'est la seule chose. Hein, mais et j'ai compris que ce jeu allait être compliqué pour moi, que ce soit
mais pour tout le monde,
boss,
hein, voilà. c'est pas propre à ton expérience. C'est un jeu difficile. Bah, on retrouve la recette Ghosts and Goblins. Hein. Je parlais de Monsieur Fujiwara, qui est le chef d'orchestre de ce titre. Alors lui, c'est une des grandes personnalités chez Capcom depuis les années 80. Mm. Il a bossé sur quelques titres. Hein. Pendant qu'il faisait Ghosts and Goblins, je crois qu'il pliait Commando en même temps. Il a signé Bionic Commando. Il a signé le fameux Sweet Home, ce jeu de RPG qui est en fait la matrice de Resident Evil. Il a été producteur sur le premier Resident Evil. Il a bossé sur Mad World sur Wii quelques années après. Donc lui, c'est vraiment une des icônes chez Capcom. Et puis son jeu Ghosts and Goblins, il a vraiment marqué son époque. On rappelle un jeu de 85, Makai Mura en japonais, qui veut dire, je crois, Démon World Village. Un jeu vraiment emblématique de son époque. Alors moi, je veux raconter ma life un petit peu, mon vécu, parce que alors nous sommes en 86, je suis possesseur d'un Amstrad CPC, je ne connaissais pas la borne d'arcade, et dans ma boutique favorite, je tombe sur cette jaquette du jeu, donc adaptée par Elite Systems sur Amstrad, jaquette complètement barrée, qui n'avait rien à voir avec les codes du jeu d'arcade japonais. Plutôt, j'imagine, une jaquette occidentale avec ce côté photoréaliste, en fait, la fameuse séquence dans le cimetière avec ce chevalier. La jaquette m'avait vraiment perturbé. J'avais quoi ? J'avais 11-12 ans. Ça marque. J'achète le jeu et là, à la fois, je suis fasciné par la réalisation du titre. C'est la musique clinquante, hallucinante sur Amstrad pour l'époque, et puis une difficulté impitoyable. Tu te cassais les dents. En plus, une version Amstrad où tu n'avais même pas la perte de l'armure qui te fait une sorte tu revis l'armure est une sorte de sas avant de perdre ta vie. Là, tu ne l'avais pas, donc c'est une touche, t'es mort. Mais cette musique hallucinante de la version Amstrad, moi que j'entends encore toujours quand je relance cette nouvelle version aujourd'hui, je l'entends encore. Cette version CPC, elle a tellement marqué les esprits que tu as même des bidouilleurs qui ont reprogrammé une version mise à jour qui retirait les quelques défauts parce que, évidemment, c'était loin d'être parfait, il y avait des coupes, le jeu était loin d'être... Il a marqué les esprits, tu as même des fanas qui ont reprogrammé une version compatible GX4000. Enfin, voilà, il y a une vraie communauté, c'est un jeu marquant de l'Amstrad, mais aussi du Commodore 64 et puis des micros de l'époque, c'était une révolution. Et puis moi, cette saga Ghosts and Goblins, elle m'a accompagné comme ça pendant des années. Mais je me rappelle de la suite, hein, Ghouls and Ghosts, qui arrive en 88, qui est vraiment emblématique de l'arrivée des 16 bits, en fait. Il y avait déjà des avancées. je me rappelle du tir vertical qui rend quand même l'expérience plus confortable, même si évidemment la difficulté est toujours là. Et puis je me rappelle très bien de ce duel de la version Mega Drive contre la version NEC PC Super Graphics. Voilà, on tapait fort, c'était vraiment toute une époque. Et puis bah voilà, une ambiance qui était toujours là. On retrouvait les codes déjà de Ghosts and Goblins, la difficulté impitoyable. Je ne l'ai pas précisé, mais il y a ce fameux twist de Ghosts and Goblins où tu arrives à bout de souffle à la fin du jeu et on te dit « bah non, mais en fait, il faut recommencer, c'était qu'un préambule, tu recommences en mode difficile pour voir la vraie fin ». C'est impitoyable. Vraiment, Ghosts and Goblins, il est toujours considéré comme un des jeux les plus difficiles de l'histoire. Hein. Il faut situer un petit peu. Donc, on parlait donc de la suite en 88. Et puis après, elle est jamais sortie vraiment du paysage, cette saga. Elle a eu des spin-offs. Il y a eu les Maximo. Je crois qu'on en avait parlé, Erwan, il y a quelques semaines. On avait évoqué Maximo sur PS2, qui était une transfiguration en 3D. Je crois que c'était prévu à la base sur Ultra 64. C'était arrivé finalement sur PS2. C'était plutôt sympa. C'était sympa de retrouver cette ambiance-là. Et puis, il y a eu des spin-off aussi, genre Gargoyle's Quest, Demon's Crest, qui faisait le focus sur l'ennemi rouge, la diabolique, le diablotin, où là on avait plutôt du jeu RPG, RPG action, qui était bien fichu, des très bons jeux sur Game Boy. Voilà, on a eu une itération sur PSP, puis le personnage surtout, c'est resté vraiment dans l'imaginaire. Il y a eu des caméos dans Dead Rising, dans Zack and Wiki, des apparitions dans les jeux de baston. Donc voilà, pour dire Ghosts and Goblins, on n'avait pas forcément beaucoup d'actu depuis quelques années, mais le fantôme était toujours là, on en parlait, c'était un peu sacralisé comme une sorte de pylône, de borne dans l'histoire du jeu d'action, avec vraiment un univers très particulier. C'est vraiment ce qui marque. Donc là, quand on lit cette interview dans Polygon de Fujiwara, il le dit lui-même, en fait, ce Ghosts and Goblins Resurrection, donc, qui est exclu sur Switch, c'est une sorte de reboot à la fois de Ghosts and Goblins et de Ghouls and Ghosts. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment beaucoup d'éléments, que ce soit visuel, du côté des ennemis, au niveau des musiques. C'est bardé de clins d'œil, donc lié aux deux premiers jeux fondateurs de la série. On retrouve, moi, ce qui fait vraiment pour moi la tonalité de ce jeu, donc en dehors de cette difficulté massacrante qui est terrible. Moi, ce que j'adore, c'est ce côté sucré-salé, à la fois un look très cartoony, très, très mignon, et en même temps, c'est un peu glauque. On est dans des cimetières, on a une ambiance avec des zombies partout, des monstres, des démons. Il y a ce côté, voilà, ce clash un peu à la fois morbide et cartoon, rigolo, évidemment avec ces corbeaux, ce fameux Red Harrimer qui nous harcèle, parce que le principe de Ghosts and Goblins, c'est ça, ce sont des personnages qui se déplacent à l'écran, on doit jouer au pixel près, ils ont tous des patterns assez calés, en fait, il faut repérer les patterns des ennemis, sauf ce diablotin qui nous harcèle. En tant que joueur, ce diablotin, c'est une... Voilà, il nous hante toujours autant. Il revient évidemment sur ce jeu Résurrection. On retrouve plein d'ennemis. Moi, j'ai eu plein de flashs de mes années Amstrad avec les chevaliers très difficiles à tuer qui font des zigzags comme ça à l'écran. Enfin, bref, on retrouve tous les niveaux sont pleins de clins d'œil aux jeux originaux. Donc, voilà, ça fait plaisir à l'œil. Mais on retrouve alors le principe de Ghosts and Goblins, c'est ce chevalier qui est engoncé dans sa grosse armure. Donc, il est lourd à diriger, en fait. Il est un peu pato, en fait. Et ça fait partie de la difficulté de ce gameplay où on est entouré comme ça de tous ces esprits morbides, de ces monstres. D'ailleurs, je recite encore cette interview de Polygon où le créateur parle d'un horror theme park. Enfin, c'était vraiment le thème qu'il voulait mettre en scène dans ce jeu. C'est... voilà, un thème comme un parc à thème horrifique avec plein de clins d'œil comme ça au cinéma, à la littérature d'horreur. Et voilà, je reviens donc sur cette gameplay qui est lourd. C'est-à-dire que le personnage, il est pas facile à diriger. Alors attention, il faut bien être clair là-dessus. Sur cette version-là, on peut pas prendre à défaut le gameplay du jeu. Je trouve que c'est aux petits oignons, c'est très précis. C'est là qu'il faut intégrer cette mécanique, c'est vrai, quand tu sors de Céleste ou des Super Meat Boy et compagnie, où tu as quelque chose
de très
élastique, de très organique, là, on n'est pas là-dedans. On est sur quelque chose de plus dur. Ben, encore une fois, c'est lié à ce personnage. Calculé, je pense que tout est dit quand on le voit à l'écran avec sa grosse armure. C'est raide. Et ça n'a pas été bougé. Il y a un parti pris que moi, je salue. Je sais qu'il va être clivant. Quand tu mets les pieds dans de Résurrection, t'en prends plein la figure. Et tu sens que il y a des efforts qui ont été faits, effectivement. Tu as des systèmes, tu as tout un système d'aide, en fait. Si tu, Si tu te mets en mode très facile, t'as des sauvegardes automatiques au fil des niveaux qui sont plus confortables, t'as les vies infinies, tu vas être bridé si tu le mets en plus simple, le plus simple possible. Par contre, tu vas pas à la vraie fin, tu vas pas avoir accès à tous les... C'est bien fichu, tu sens qu'il y a un effort qui a été fait, mais même comme ça, même en mode très facile, ça reste impitoyable. Et ça peut être décourageant. Attention, c'est vrai qu'il faut s'accrocher. Je comprends, Ewan, que tu... quand les premières heures sont difficiles.
Alors, moi, il y a juste un truc, c'est... je suis très content que Ghosts and Goblins Resurrection existe. Je ne vais jamais... il plaît à des gens comme toi, il plaît à des hardcore gamers. Enfin, il y a le mix entre l'aspect nostalgique d'une licence hyper importante de l'histoire du jeu vidéo, et il y a ce côté difficulté assumée, avec qui utilise les ingrédients de base de la licence, enfin qui utilise les ingrédients de base de la série. Donc c'est il y a une sorte de cohérence comme ça qui est inattaquable. On peut pas dire mais c'est n'importe quoi ce jeu, etc.
C'est drôle.
Sauf que c'est aussi comment dire. Je fais la comparaison juste avec Céleste. Avec Céleste, quand Céleste met en place le mode facile, et c'est vraiment dans un côté d'accessibilité, de dire vous n'avez pas besoin d'être une superstar capable de faire les phases B, les phases C, etc. pour profiter du jeu, profiter de l'histoire et tout ça. Mais on gardait un challenge. Je trouvais que le challenge devenait plus accessible. Là, ce que je veux dire, c'est que le truc est effectivement lourd et effectivement hyper...
Mais précis. Ouais, il est exigeant, exigeant.
Mais il n'est pas agréable, en fait.
Mais il y a un effort d'accessibilité qui a été fait, quand même, du coup, par rapport aux anciens.
Mais en fait, il n'est pas... Je le trouve pas agréable à jouer. Agréable. Alors après, c'est très personnel, mais je trouve pas agréable à manipuler, en fait.
Là, je pense
notamment
que
ce truc où il faut mitrailler pour lancer les épées, lancer les armes, etc. en même temps que sauter. Enfin, je trouve que il y a un truc dans les mouvements, dans le gameplay. Après, je ne conteste pas du tout l'intérêt du truc parce que ça fait partie de l'ADN.
J'avoue que
moi, je suis très, même si j'ai joué à l'époque à Ghosts and Goblins, mais j'avais pas accroché plus que ça.
Le choix des armes est capital, on le sait. Hein, dans Ghosts and Goblins, il faut toujours faire attention à quelle arme on va récupérer, à quel moment du jeu, selon quel adversaire tu es en face de toi, parce qu'effectivement, tout se joue au millimétré, la fréquence des tirs, tout ça, il faut faire très attention. En fait, tu es en stress continu. Quand tu joues, tu n'es jamais serein. C'est pour ça que je pense que la difficulté peu écœurée, elle est complètement assumée, encore une fois, dans cette interview de Polygone. Hein, le chef d'orchestre, quand on lui pose la question, est-ce que vous, si vous refaisiez aujourd'hui le Ghosts and Goblins original, est-ce que vous le rendriez plus simple? Il dit non, parce que les joueurs de l'époque avaient besoin de ça s'intéressait à cette typologie de joueurs de l'époque. Moi, ma question, je kiffe parce que je retrouve, mais voilà, il y a plein de trucs qui te... En fait, le jeu, t'as un rapport assez bizarre, presque, pas sadomaso, mais presque, en fait. Il est charmant, il a un visuel, j'adore le look. Ça m'a fait penser à cette séquence dans le secret de la pyramide. Vous savez, avec le vitrail, un des premiers CGI au cinéma avec un vitrail qui est animé. Ouais. T'as un peu ce rendu très gothique dans le jeu. Moi, j'adore le look. Je trouve qu'ils ont fait un boulot extraordinaire de... En fait, c'est le RE Engine, hein, le moteur des Resident Evil qui est utilisé. Alors, c'est drôle de se dire que ça, c'est la même machine qui tourne, qui fait tourner ça et les derniers Resident. Je trouve ça fabuleux parce que tu retrouves les codes. En même temps, c'est sur une 3D, mais t'as un effet de 2D à plat. Enfin, je trouve magnifique. Je trouve qu'il y a le respect des codes originaux. Donc le jeu, il est charmant, il te fait des papouilles avec ses musiques, avec ses graphismes, plein de clins d'œil, etc. Mais il te fait mal tout le temps, en fait. Il te fait mal, il te lâche pas. C'est un jeu de sale gosse, en fait. Je dis encore une fois, le gameplay est jamais pris à défaut. Donc tu t'en prends à toi-même, en fait. Tu te retrouves à te dire, mais non, c'est moi qui ai mal géré ça. Et en fait, il est injuste dans les moments où il te fait un piège que tu n'as pas pu voir venir, où tu arrives sur une plateforme, elle se dérobe sous tes pieds, alors que tu ne pouvais pas le prévoir, ou là, il faut vraiment regarder les patterns. Tu as un truc qui va apparaître. En fait, c'est du die and retry, il continue. Puis là, ils en surjouent avec ce côté vie infinie, donc tu es à fond là-dedans. Il te fait mal, mais c'est tellement gratifiant quand tu réussis un truc. Quand tu réussis un passage, il y a vraiment une jouissance de dire « j'ai réussi, j'ai passé ce truc-là, tu prends sur toi ». Et ça, c'est vraiment ce que voulait faire. C'est du Dark Souls avant l'heure, hein, clairement. Il y a le côté se battre contre une machine, à part que là, tu as ce côté rigidité que tu as moins, je pense, dans les Dark Souls. Là, tu as vraiment quelque chose dans les mécaniques même. Ça peut être écœurant, mais moi, je pense qu'il y a y a un équilibre. Il faut, si tu achètes ce jeu, tu sais dans quoi tu t'engages, tu sais que tu vas être pris. Moi, il y a vraiment le côté nostalgique qui joue. Il y a ce plaisir sensitif de retrouver les musiques, les sons, les graphismes, l'ambiance. Donc ça joue beaucoup. Je pense que je ne suis pas neutre. Je me dis, voilà, un jeune qui le découvre aujourd'hui, est-ce qu'il va accrocher autant à l'univers? Je pense que l'univers a un charme. Il a ce charme morbide, comique, un peu bizarre, qui est toujours attrayant, qui marche bien. La difficulté est assumée. Encore une fois, tu prends tellement de plaisir quand tu passes un niveau. Tu te sens changé, tu te sens plus grand quand tu as passé ça. Ce que je veux dire, c'est que on peut parler de sadomaso, mais c'est pas une relation toxique, ce jeu. Il t'encourage. Et vraiment, je suis pas bon. Moi, je pense que je suis pas un très bon joueur de Ghosts'n Goblins. J'ai jamais été. J'en prends plein la figure. Là, il y a eu des séquences. Je vous passe les détails, mais j'ai dû repasser 100 fois un truc. J'ai dû mourir 100 fois.
Bah ouais, j'ai l'impression que c'est un passage obligé, quoi.
Mais vraiment, et t'en prends plein la figure. Tu te sens pas bien. Je dois être au niveau de difficulté. J'ai pas pris le plus bas parce que je sais que tu perds plein de choses du jeu. Je vais être sur celui d'après. J'en prends plein la figure. Mais, c'est pas toxique parce que vraiment, manette en main, je recommence toujours. Je recommence que je me dis, c'est de ma faute, je vais apprendre. Il y a moyen de s'en sortir. T'as des moments de grâce aussi avec le hasard qui font que tu vas passer un truc un peu par hasard avec un coup de chance. Tu vas passer des embranchements avec des morceaux dans la glace. T'arrives à passer un moment, t'as un coup de chance, c'est comme ça. La chance peut s'inviter. Il y a une sorte de chaos dans ces parties finalement qui fait que tu t'es face à toi-même. Et je peux comprendre complètement qu'on décroche ou qu'on jette la suite. Il vaut mieux pas. Gardez-la. Mais il faut y jouer. Il faut éviter l'analogique. Moi, j'ai joué en docké. Après, j'ai rejoué beaucoup en portable. Il faut y jouer vraiment que la croix, même sur la Switch en portable. Il faut jouer avec les croix directionnelles. Hein. L'analogique, je déconseille. Voilà, c'est pas du tout un jeu toxique. Moi, je conseille. C'est un jeu de sale gosse, quoi. On sent que vraiment les développeurs se moquent de nous. Ils nous font mal, mais c'est on apprend beaucoup sur soi en jouant à Ghosts'n Goblins et ça fait plaisir, moi, vraiment de la retrouver cette série dans un tel état de forme, dans un tel brio visuel. Waouh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
Ben non, le truc que je retiens en fait dans ce type de jeu, c'est que, ce qui fait que ça marche là dans ce que tu nous dis, Patrick, c'est le fait que l'erreur tienne de la part du joueur en fait et pas de celle du jeu, quoi. Le fait que t'aies envie de refaire une partie à chaque fois, c'est parce que tu te dis c'est une erreur que j'ai faite moi, quoi. Et c'est un peu un truc que tu retrouves dans Spelunky 2. Moi, si j'accepte de me faire malmener, si j'accepte de passer ce pacte avec les développeurs, c'est parce que je sais qu'à un moment j'ai fauté. Donc si le gameplay comporte aucune injustice, pourquoi pas.
Alors, ils ne sont pas toujours fair-play. Il y a vraiment des pièges que tu ne peux pas voir venir où tu perds une vie. En gros, c'est le deal. Hein. Il y a des moments où tu vas perdre une vie parce qu'il faut que tu apprennes le pattern de tel ennemi. Où je te dis, mais c'est tout ça. Mais passer une plateforme qui bouge comme ça, mais elle est piège. Mais ça date des débuts. Hein. Ça a toujours été comme ça. Tu crois qu'elle a un pattern. Tu arrives dessus, elle fait un écart parce que tu n'as pas fait gaffe qu'il y avait une sorte de demi-pattern où elle part ailleurs. Le jeu, il n'arrête pas de te piéger. Mais tu apprends, et puis ça fait partie des codes. Mais tu te sens tellement, t'es tellement content quand tu maîtrises le truc que tu arrives à passer. Une fois, il y a cette ambiance morbido-comique qui marche vraiment. Les musiques sont vraiment chouettes, pleines de clins d'œil évidemment aux originaux. Moi, je signe. Après, c'est vraiment pas pour tout le monde. Je crois qu'il est vendu une trentaine d'euros. Oui. Bon, il faut savoir où on met les pieds. Attention, c'est vraiment pas recommandé à tout le monde. Il faut être prêt à en prendre plein la figure. C'est un rapport. Ça, on parlait tout à l'heure des jeux avec l'ennui. Là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est un jeu sur la difficulté, sur un mur de difficulté. Est-ce que tu vas avoir envie de le passer? Moi, il y a mon moi de 86 qui me dit vas-y, accroche-toi parce que tu y arrivais à l'époque. Il faut que tu y arrives. Tu vois, il y a quelque chose de viscéral. Moi, c'est mon expérience avec cette série qui fait que je m'accroche. C'est très personnel. Je pense qu'il faut y aller. Si on y va, t'y vas pas par hasard, j'ai envie de dire. Hein, t'y vas pas. En tout cas, il faut pas y aller que pour l'ambiance visuelle. Il faut aussi savoir ce que son côté guiret et mignon, il pique. Et il faut être prêt à se faire piquer.
Moi, le seul truc, c'est que je sais. Moi, je n'étant pas, et puis de toute façon, je cache pas, un grand spécialiste des jeux où il faut s'accrocher face à une difficulté monstrueuse. Mais même dans ce registre-là, je t'avoue que je suis peut-être plus convaincu par un jeu comme Cuphead, qui avait cette modernité et cette difficulté aussi, visuelle. Cette demande de précision et qui était impardonnable, enfin qui ne pardonnait pas plutôt. Qui était magnifique aussi.
C'est quoi Cuphead? C'est un enfant de Ghosts'n Goblins, hein, faut pas se
leurrer. Sans doute, oui.
C'est un enfant de cette typologie de jeu, donc... Oui, après, t'as, encore une fois, tu as l'ambiance, tu as le, les sauts. Tu finis par y prendre plaisir, en fait, hein,
au déplacement. Ah, mais ça, je n'en doute absolument pas, Patrick.
C'est un plaisir peut-être un peu bizarre, je peux comprendre. Mmh. Hein, ça, c'est vraiment pas pour tout le monde, encore une fois.
Donc, tu l'as dit, 30 euros sur...
Oui, 30 euros sur Switch, sur en démat uniquement. Voilà,
ça va pas
si
trop
ça
déçu.
Vous tente, si vous êtes un nostalgique.
Tu aurais voulu ta boîte, voilà.
Comment?
Tu aurais voulu ta boîte?
Ah oui, ouais, clairement. Bah, sur un jeu comme ça, complètement. Ouais, une petite compile avec aussi les anciens. Il bah, y a une compile qui est sortie, mais en démat aussi arcade. On reviendra peut-être dessus. Ouais. Avec enfin, les jeux d'origine. Mais en tout cas, voilà une belle relecture. Et puis, bah, c'est intéressant, je trouve. Tu vois, les développeurs qui rebossent sur leur jeu 30 ans après, bah, je trouve ça intéressant. Sans rien lâcher, en fait. Donc, c'est intéressant. Mais en tout cas, attention, on le redit, hein, même en facile, c'est un des jeux les plus difficiles actuellement, même en mode facile. Hein, il faut quand même bien le préciser.
Tout à fait. Voilà. J'ai vécu. C'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de société. Salut, Jérémy.
Salut Erwan, alors tu dois t'en douter, il y a plein de catégories de jeux de plateau. Les jeux de stratégie, les jeux de lettres, les jeux de hasard, les jeux d'adresse, les jeux de programmation, les jeux coopératifs, il y a les Ameritrash et les Eurogames. Il y en a plein d'autres, mais il y en a une que j'ai découvert récemment, enfin j'ai compris que c'était une catégorie. Bah oui, parce qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de jeux qui ont le même point commun, il est légitime d'en faire une catégorie. Et donc aujourd'hui on va parler du dernier né de cette catégorie des jeux de cartes d'oiseaux perchés sur les fils électriques. L'an dernier j'avais chroniqué ici même un jeu de collection qui s'appelait Q-Bird, puis aussi What's Up, un jeu de mémoire tactique très sympa. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Papageno. Et c'est, je crois, la première fois que je parle ici d'une boîte aussi petite. Elle se glisse sans problème dans la poche arrière. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Papageno, à part le fait qu'il s'agit encore d'un énième jeu d'oiseaux perchés sur des fils électriques? Bien, déjà qu'il s'agit d'un jeu de cartes assez traditionnel, dans sa mécanique. Chaque joueur reçoit face cachée 6 cartes devant lui, 2 lignes de 3. Puis chacun à leur tour, ils vont piocher une carte et choisir de la poser devant eux ou de la défausser. Les cartes oiseaux sont numérotées de 1 à 9, et comme les illustrations nous le font très bien comprendre, plus le nombre est élevé et plus l'oiseau est lourd, il est gras. Il pèse, et comme le but du jeu c'est de finir la partie avec la nuée d'oiseaux, la volée d'oiseaux la plus légère possible, c'est-à-dire que la somme de ces 6 cartes doit être la plus basse possible, alors il faudra se débarrasser des oiseaux les plus encombrants. Autre originalité de ce jeu, les cartes qui ont la même valeur et qui sont disposées l'une au-dessus de l'autre s'annulent, quelle que soit leur valeur. Il y a aussi des cartes spéciales comme la carte capture qui permet de choper un oiseau chez un adversaire. Elle a une valeur de 10, tout comme la carte flûte de pan qui a l'air un petit peu encombrante. Si on choisit de garder la carte, on va la poser devant soi à la place de l'une des 6 déjà présentes. Et c'est ce qui fait l'originalité de ce jeu, on va passer celle-ci à notre voisin de gauche qui devra impérativement la poser à la même place, c'est-à-dire que si je lui passe ma carte d'en bas à gauche, il devra la poser devant lui en bas à la gauche, quelle que soit la carte qu'il y avait avant. Et ça continue, ça fait un tour complet, on passe chacun 7 cartes à notre voisin de gauche. Et vous l'avez compris, il y a plein de stratégies et de coups bas à faire avec ça. Et je ne vous ai pas parlé de l'oiseau spécial qui a une valeur de moins 2, oui, ben il est plus léger que l'air, il doit s'accrocher au fil pour ne pas s'envoler. Ouais. Donc voilà, Papageno c'est sympathique, c'est onirique, à chaque fois qu'on pose une carte on a l'impression de donner un petit coup de pinceau. Donc voilà, il casse pas trois pattes à un oiseau, mais il a quand même son charme. Certains des spécialistes comme moi auront peut-être détecté la parenté avec un jeu qui s'appelait Gang de Castor il y a 10-15 ans. Oui, c'est vrai, mais Papageno est quand même un petit peu plus élégant. L'auteur Kevin Kim, l'éditeur Helvetic TIQ à la fin. De 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ un quart d'heure. D'ailleurs on peut tous témoigner de l'influence grandissante des jeux de plateau sur les jeux vidéo. Birds on Wire, Maestro, Tremblay. L'industrie du jeu vidéo n'est pas prête à cette déferlante, à ce raz-de-marée de jeux d'oiseaux perchés sur des fils électriques. Bye bye.
Bye bye, Jérémy. Je suis encore sous le choc d'apprendre l'existence de ce jeu. Est-ce qu'il sera
porté...
Et de
cette catégorie.
De cette catégorie de jeux. Est-ce que ce sera porté en jeu vidéo? Est-ce qu'on aura une catégorie Steam?
Bah ouais.
Les oiseaux perchés sur des fils, ce serait bien.
On a eu Wingspan, bon, ils n'étaient pas vraiment perchés sur des fils, mais on a eu Wingspan en adaptation
récente. J'ai téléchargé la version Steam de Wingspan, que j'ai la boîte hein, à la maison,
elle est très chouette. Enfin, c'est sympa.
Elle est bien la version.
C'est sympa. Après, le truc, c'est qu'il faut voir à quel point ça apporte par rapport à la version plateau, moi, que j'avais pas. Mais moi, en tout cas, c'était un plaisir à découvrir, quoi.
Le plateau est incroyable.
Ah, il paraît, faire des stratégies de dingue, ouais.
Ouais, et puis c'est ce petit truc pour jeter les dés et tout. Enfin, cette petite maison est trop bien. C'est une très, très belle boîte. C'est le moment de partir en Suède, à Malmö. Chez le studio Tarsir Studio qui revient. On en avait parlé dans Silence on Joue, c'était en avril 2017. À l'époque, figurez-vous, on était en vidéo.
Eh oui.
Et, wow. oui, on faisait de la télé même, hein. On était chez No Life. non mais en fait je dis ça parce que j'ai re-regardé notre chronique de Little Nightmares, parce que je me souvenais que j'avais été très, un petit peu sévère sur le jeu, et puis du coup ça m'a permis de me remettre un peu dans l'ambiance. Et donc voilà, donc, Tarsier Studio, ils reviennent avec leur univers très très spécial avec Little Nightmares 2. Little Nightmares 2, donc on est vraiment dans la suite logique du premier. On rappelle ce premier épisode qui, déjà, on avait signalé la parenté, par exemple, avec les productions Play Dead, avec Inside, avec Limbo, dans cet univers un peu à mi-chemin entre l'univers enfantin et horrifique, et avec ce design qui était déjà étonnant à l'époque, en 2017. Little Nightmares était un jeu magnifique, mais qu'on avait un peu épinglé sur son gameplay et sur ce choix, finalement, qu'on trouvait, enfin, que je trouvais à l'époque un peu maladroit, d'utiliser une sorte d'iconographie, enfin de visuel de 2,5D, donc de ce modèle où on joue dans un scrolling horizontal, mais avec des décors qui sont modélisés en 3D, donc on peut avoir comme ça des effets sur l'arrière. Et en fait, ils avaient fait le choix de ne pas vraiment être en 2,5D, mais d'être en 3D caméra fixe, ce qui est totalement différent, c'est-à-dire avec cette possibilité de se balader, c'est-à-dire c'était pas un jeu en scrolling, mais on pouvait se balader dans la profondeur des niveaux. Il y a un autre jeu qui l'a fait d'une manière tout aussi maladroite, c'était un Train, je crois, le Train 3.
Avec les différents plans, là, oui, c'est vrai. Oui,
Qui, comme ça, c'était un peu perdu aussi, ouais. Autour de cette profondeur, voilà, en utilisant la profondeur du jeu. Bref, dans Little Nightmares, ça avait été un souci parce qu'il y avait comme ça des imprécisions où on mourait à répétition, où des checkpoints étaient un peu mal placés, ce qui fait qu'on mourait à répétition sur comme ça à cause d'imprécisions, et puis après on était obligé de tous retaper. Bref, même si on avait loué, et à juste titre, la performance en termes de design de ce jeu-là, il y avait quand même un petit goût d'inachevé. La question, c'est Little Nightmares 2, est-ce que ça corrige ça? Moi, je vais spoiler direct mon avis, oui. Mais parce que je te dis, je spoil parce que toi, tu n'avais pas joué à Little Nightmares, Julie, donc tu ne peux pas faire ce comparatif. Mais voilà, en tant que nouvelle arrivante dans la licence, comment est-ce que tu as découvert ce Little Nightmares 2?
Ben justement, hein, sans connaître grand-chose, hein, parce que j'avais juste vu quelques images du 1, je trouvais la direction artistique ultra chouette, enfin, j'ai l'impression que c'est le gros point fort du jeu, mais que c'était, bah, a priori, son seul point fort, quoi, que ça n'avait pas l'air très fun à jouer, que c'était comme une espèce de souple dead, en fait, quoi, en termes de gameplay. Et celui-là, bah, justement, je l'ai découvert sans appréhension aucune. Direct, voilà, forcément, la direction artistique, elle m'a séduite immédiatement. C'est vraiment magnifique. Enfin, le jeu, ça peut durer, quoi, entre 6 et 8 heures. Ça dépend de votre inaptitude à résoudre les énigmes ou non. Moi, j'étais plus du côté des 8 heures. Mais c'est magnifique de bout en bout. Vraiment, la DA est superbe. Quoique dérangeante, mais ça on en parlera plus tard. Et la mise en scène est très chouette. Et je pense que ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'on arrive dans ce jeu sans rien en savoir, quoi. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de cinématique, il n'y a pas de dialogue. Et ça, j'aime beaucoup le fait que ce soit complètement assumé que c'est un jeu où tout est mis au service des images et de la mise en scène. Il n'est pas dénué d'intérêt sur les autres côtés pour autant, mais en tout cas, on en avait parlé un petit peu avec Shady Part of Me, qui avait tendance à distiller son scénario de manière un peu lourde. Là, pour le coup, c'est complètement épuré. Ouais. Et j'aime beaucoup, en fait, quand un jeu assume son côté purement visuel et que c'est au joueur, en fait, d'assembler les morceaux de son côté, quoi. Ouais. Donc c'est très très chouette. De ce que j'ai compris, une des grosses différences par rapport au 1, c'est qu'on a un autre personnage avec nous, enfin pas toujours, mais donc l'héroïne du premier opus, et qui va parfois nous aider à nous faire la courte échelle, à sauter des espèces de trous un peu plus gros, nous rattraper par la main, enfin transporter des objets. Les énigmes sont, honnêtement, je trouve la difficulté assez bien dosée. On trouve assez facilement là où on peut bloquer, on fait pas des allers-retours incessants. Ça augmente très progressivement et là-dessus, j'ai trouvé ça vraiment nickel. Là où je mettrais un petit bémol, ce serait sur certaines phases d'infiltration, parce que je les trouve vraiment très très chouettes, ultra stressantes. Enfin, elles produisent l'effet que ça doit produire. Je pense typiquement, en gros, ça se divise en 4 grosses zones, le jeu, et à chaque fois, c'est une structure similaire. On arrive dans une zone, on la découvre, on fait quelques énigmes, on va avoir des phases d'infiltration et une espèce de course-poursuite. Les phases d'infiltration, moi, il y en a une qui m'a particulièrement donné du fil à retordre, c'est dans la deuxième phase, qui est dans une école, ouais, avec une institutrice dictatoriale austère et horrible qui me terrifiait vraiment. C'est une créature, vraiment, en termes de design, elle est... ultra réussi parce qu'elle a une espèce de... C'est au début du jeu, donc je ne spoil pas trop, mais elle a une espèce de cou gigantesque qui peut s'étirer et aller dans les moindres recoins, et c'est absolument terrifiant parce que nous, on est vraiment à hauteur d'enfant, on se sent complètement démuni. Et moi, j'avais vraiment l'impression de vivre un cauchemar d'enfant qui se retrouve dans cette école avec cette institutrice qui nous poursuit. Et il y a donc des phases où on doit... naviguer à travers une classe sans être vu, et moi je paniquais, en fait je me cognais contre les décors, et il y a un moment où je me demandais, est-ce que c'est le résultat de la peur ou est-ce que c'est le résultat de contrôle approximatif? Et j'ai l'impression que c'est un peu des deux, dans le sens où parfois il faut se cacher derrière un bureau, on a l'impression d'y être, on n'y est pas et on va se faire choper par l'institutrice, donc il y a des moments qui m'ont un peu fait râler, mais je pense que c'est aussi parce que c'était incroyablement efficace. J'avais vraiment peur comme... Ça faisait longtemps que j'avais pas eu peur comme ça avec une créature pourtant qu'on voit dans son entier, quoi. Mais voilà, il y a juste ces petites choses là en fait sur lesquelles je mettrais un petit bémol, quoi. Mais pour le coup, les checkpoints sont très bien espacés. Il y a aussi dans les approximations, il y a aussi les combats, parce que on a quelques combats quand même. On peut parfois se saisir d'un objet et se battre contre des personnages. Et il y a un côté, je trouve, ultra dérangeant, qui est assez bien fait, parce que dans le sens où quand on tue ces personnages, c'est aussi dérangeant que quand nous on meurt. Il y a un truc très maîtrisé là-dessus, quoi.
C'est assez fou ce que tu dis. J'accroche totalement. Ce qui est, moi, je vais revenir plus sur la comparaison avec Little Nightmares 1. Vraiment, on est sur la version plus évoluée où quasiment tous les défauts du 1 ont été résolus, tout en gardant cette 3D caméra fixe. Et là, c'est là où je suis moi-même étonné, parce que limite, le premier conseil que j'aurais eu à donner à Tarsir après Little Nightmares 1, c'est revenez en 2,5D. Regardez ce que fait Playdead, ils le font bien, restez sur un seul plan, comme ça, en fait, les approximations de gameplay, vous les avez pas, etc. Non, eux, ils se sont dit, je pense qu'ils ont compris là où ils avaient un peu laissé de l'approximation là où il fallait pas dans le premier, mais ils ont gardé ce système-là, ils ont gardé cette 3D caméra fixe, mais en la maîtrisant vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment très rare que je me suis senti désorienté par rapport à la position du personnage. C'est ce qui est, dans ce genre de gameplay, le plus compliqué, c'est-à-dire la position du personnage dans la profondeur. Quand t'as une caméra fixe comme ça, c'est jamais très simple. Et là, je sais pas, il y a ce côté très naturel qui est... Je pense que ça a été très bien... Il y a eu des tests joueurs, enfin, ça a été très bien calibré. Et du coup, tout se déroule comme ça, avec une continuité, avec un dynamisme. Il y a tout le temps des trucs à faire. Ça se répète pile ce qu'il faut. Alors que le premier était parfois beaucoup trop répétitif. dans ces mécanismes et tout ça. Là, il y a des répétitions, mais c'est pile ce qu'il faut pour que tu aies eu l'impression de valider ton apprentissage des erreurs précédentes, ce qui, c'est le bon moment. Et la claque visuelle est comme ça, est répétée niveau après niveau, c'est-à-dire que, enfin, on te donne beaucoup, en fait. C'est un jeu ultra généreux en termes de visuel. Ils réutilisent pas... Enfin, à chaque nouvelle salle, t'as comme ça des petits détails, et c'est vraiment très, très étonnant. Enfin, je raconte juste comme ça, mais des fois, je me suis dit... J'ai l'impression de retrouver cette impression qu'on a parfois dans Uncharted, tu sais, où on passe très, très vite, on joue le Nathan machin, et on passe très très vite dans des décors somptueux. Et puis on saute, et puis le décor, on le voit plus jamais dans le jeu. Et puis on se dit, voilà, oh là, il y a des designers, ils ont bossé des heures pour faire ce décor de ouf. Et nous, on passe en courant, en sautant et en tirant partout, et on n'en profite même pas. Et là, dans Little Nightmares 2, des fois, je me suis dit, mais j'ai envie de rester un peu plus parce que ce décor, je vais pas le revoir. Par exemple, quand on arrive dans l'école, on passe par la cour d'école. Il y a une balançoire, il y a des jouets, il y a des trucs à faire dans cette cour d'école. Franchement, ça sert à rien. C'est-à-dire que tu traverses la cour d'école et tu passes par la fenêtre et tu continues ton niveau.
Il y
Mais
avait
tu
déjà
peux
ça en
essayer.
premier, je crois. Il me
Et
semble
tu
qu'il y
peux
avait
essayer
des...
la balançoire. Enfin, c'était.
Oui, je l'ai fait, ouais. C'est comme des espèces de fausses pistes, enfin, qui poussent à l'exploration. J'aime bien ça, ouais.
Exactement. Et du coup, je trouve que tout est vraiment hyper cohérent. Et même pour revenir sur un point que tu as donné et que moi je trouvais à l'époque du premier presque un défaut, qui est la non-narration, en tout cas la narration environnementale très légère et tout ça. Je trouvais que dans le premier, en fait, on débarquait, on savait pas trop ce qu'il fallait faire et que finalement, la seule chose qui nous motivait pour avancer dans le jeu était le fait d'avancer dans le jeu. Je sais pas si je suis très clair, mais
Ouais,
c'est
je crois que je vois.
que en fait,
Et
il y
puis
avait pas.
comprendre, on voulait en savoir plus aussi, on était en
Mais pas
quête
tellement dans...
de... Et t'avais une fin qui te... Bah, qui n'expliquait pas tout en plus, hein. Il y avait une frustration, je me rappelle, à la fin, la séquence finale du premier, hein. Tu
Ouais,
avais envie d'en
mais...
savoir plus.
Ouais, on avait envie d'en savoir plus, mais je trouvais que c'était pas... Il n'y avait pas un truc qui te poussait vraiment à avancer au-delà du fait d'avancer dans le jeu, en fait. Ce qui suffit hein, aussi, mais
Les
on
ennemis, moi
pouvait...
je me rappelle que les rencontres en elles-mêmes te suffisaient à te motiver. Le design, le visuel des ennemis, déjà dans le premier. Et je me rappelle que tu avais un jeu aussi avec les situations, du platforming, du moment un peu à se cacher. Enfin, il me semble qu'ils avaient pas mal travaillé déjà sur moduler, questionner les principes sur quoi? Sur 6 heures de jeu.
Ouais, mais moi je me souviens que j'avais été un peu perdu et que ça m'avait, enfin justement cette absence narrative m'avait un peu pesé en fait dans le premier. Alors que là, en fait, le fait d'avoir, en fait, on joue mono, donc alors il faut lire ce qui existe autour du jeu pour apprendre son nom, hein, mais parce que c'est pas expliqué. Tout comme Six, c'est pas expliqué dans le premier. Mais on joue mono et accompagné un peu plus tard dans le jeu de Six. Non, enfin pas un peu plus tard, dès le début. Mais et là, en fait, le fait d'avoir deux personnages, d'avoir des situations où il y a quelque chose de l'ordre de la fuite. On sait qu'on cherche à échapper à quelque chose, ce qui n'était pas le cas vraiment dans le premier. Il y a ce côté où on retrouve finalement une narration plus proche de Inside, je trouvais, où on est un peu comme ça dans l'évasion. Et
Une
du coup,
fuite.
ça tient, je trouve. Et c'est tout ça pour dire que ce Little Nightmares 2 est une vraie pépite. Enfin, il y a un truc vraiment complet. Et comme tu l'as dit, Julie, il y a des moments quand même bien, bien flippants. Enfin,
Bon, je suis
mais
sûr qu'on
j'ai.
a été tous les deux traumatisés par la prof, c'est pas possible.
Ah, il porte bien son nom,
Oh là
quoi. Il
là,
porte
oh
bien
là
son
là.
nom. C'est.
Et
On
puis,
peut rentrer sur le deuxième si on n'a pas fait le premier. A priori, Julie,
Ah,
toi, t'as pas eu
complètement,
de
franchement.
manque de voilà, t'as pas de.
Bah non, pas du tout,
Pour
ouais,
rentrer
justement, bah,
complètement.
le fait qu'il y ait cette absence de scénario complètement assumé, en fait, pour moi, le jeu, ouais, c'est juste une fuite permanente, et j'avais pas trop besoin de savoir ce que je fuyais au juste, quoi. Enfin, moi, la motivation, en fait, d'aller de tableau en tableau me suffisait amplement, en fait.
Alors, j'ai découvert quand même en préparant l'émission qu'il y avait effectivement, on parle de cet univers. Il y a un comics qui est sorti, Little Nightmares, Very Little Nightmares, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est en fait, du coup, il y a ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a tout un univers Little Nightmares que je ne supposais pas.
Cool.
Mais... j'ai vraiment découvert son existence parce que c'est vrai que dans les jeux. Tu sens, il y a des détails, il y a des choses, il y a des, il y a des relations entre
aussi.
Les, il y a beaucoup de non-dits, mais
c'est ça, ouais.
comme tu disais sur la comparaison avec Shady Part of Me est assez prenante, hein, assez saisissante, c'est que là on te met des touches où on te fait supposer qu'il y a une histoire sans te donner vraiment les clés pour la comprendre. Bon, mis à part un petit twist final qui permet de comprendre des relations entre différents personnages, mais le truc est vraiment cohérent. Et encore une fois, moi, j'appuie le fait que le gameplay tient vraiment du début à la fin. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'innovations, en fait.
Et ce côté aussi d'être projeté comme ça dans un univers que tu connais pas, tu sais pas qui tu es, ce que tu fais, il y a vraiment ce côté nightmare, cauchemar. T'as vraiment cette sensation de traverser un cauchemar, comme dans des vrais cauchemars où tu sais pas où tu es, tu sais pas trop ce que tu dois faire. Et finalement, ils reproduisent aussi cette mécanique d'être dans l'inconnu, inquiétant, avec des menaces, tu sais pas trop où tu vas, et ça fait vraiment partie du trip cauchemardesque, je trouve, finalement, qui est plutôt réussi, hein, d'être parachuté comme ça dans l'inconnu, l'angoisse.
Et là où c'est assez marrant, où c'est, je reviens juste sur les énigmes. Il y a quelques, en fait, il y en a pas beaucoup. Enfin, c'est pas blindé d'énigmes.
C'est de la physique, non? C'est de la physique.
Alors non, justement, en fait, bon, il y a les énigmes physiques qui sont. Mais t'as des petits trucs à trouver. Qui sont pas évidents, hein, à chaque fois. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, Julie, mais.
Certains, ouais.
Enfin, on peut même pas les nommer parce que rien que les nommer, ce serait
dévoiler le
réponse,
truc, ouais.
Mais à chaque fois, en fait, il y a un blocage. Tu sais que t'as un truc à faire et c'est peut-être ce qui sauve là, c'est qu'il est très clair. Ou à un moment, tu peux plus avancer, donc tu sais que t'as un truc à faire. Tu sais que t'as pas trouvé un truc et que, eh ben, c'est dans les quatre pièces auxquelles que tu as accès qu'il va falloir trouver la réponse. Et en fait, c'est plutôt bien pensé, en fait. Il y a vraiment quelques-unes des énigmes, mais elles sont bien designées, je trouve.
Est-ce que c'est le genre de jeu auquel tu penses les énigmes quand tu ne joues plus entre deux parties ou pas?
Non, parce que alors elles sont pas dures à ce point-là, en fait.
D'accord.
Tu
le fais quasiment en une traite, quoi, en gros.
Ça peut se faire en une grosse traite ou deux, quoi. Ouais, ouais. Mm. Mais en fait, là où les énigmes sont, moi, je trouve bien, c'est qu'elles sont dans une. Elles ont une unité de lieu, c'est-à-dire tu sais que tu as genre au maximum trois salles, bon généralement une seule ou deux, tu as deux salles et tu dois trouver un truc. Tu sais que tu dois trouver un truc qui n'est pas évident, c'est pas un engrenage à mettre à un endroit,
c'est enfin, ça,
t'as des clés à trouver, bon ça c'est le niveau zéro de l'énigme, mais t'en as dans Little Nightmares, mais là c'est un truc qui n'est pas ailleurs dans le jeu.
Donc c'est un
objet, quoi, avec lequel interagir, un objet à déplacer dans un endroit, un objet à trouver puis à déplacer dans un endroit puis à récupérer un truc, enfin voilà, et en fait il y a une logique comme ça à trouver, et je trouve qu'elles sont super malines, généralement ça marche plutôt bien, et les phases de course-poursuite sont extrêmement flippantes.
La scène du repas dans le premier, mais elle m'est restée dans la tête, la scène du repas, je ne sais pas si vous... Erwan, tu te rappelles? Ouais, moi, j'ai une question fondamentale. Est-ce qu'il est toujours compatible Amiibo sur Switch? Parce que le premier était compatible avec l'Amiibo Pac-Man, on pouvait débloquer une skin, et ça, c'était colossal.
Je ne sais pas.
Bon, bref.
Mais pour juste rebondir sur ce que tu disais sur les énigmes, moi, c'est vrai qu'il y a des moments où tu sais pertinemment ce que tu dois faire, mais tu sais pas comment y arriver. Et moi, j'ai eu tellement de tentatives infructueuses, débiles, où je me disais, mais comment est-ce que j'ai pu me dire que ça allait donner quelque chose? Typiquement, j'arrive dans un tableau. Le seul nouvel élément dont je dispose, ça va être un rouleau de papier toilette. Je vais m'échiner à utiliser ce rouleau de papier toilette pour le balancer de plateforme en plateforme. Et en fait, je me rends compte que ça sert à rien parce qu'il y avait une petite ouverture que j'avais pas vue. Mais ça, il y a des moments marrants. En fait, tu expérimentes avec ta propre imagination où tu te dis, ok, j'ai trop joué au point and click des années 90, j'ai l'esprit trop tordu, quoi. Mais ouais, c'est très sympa.
Oui, mais là tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même.
Exactement.
En tout cas, vraiment très 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 bonne surprise. J'avoue que j'avais, du coup, comme j'ai expliqué, j'avais pas forcément un avis très très. Enfin, j'avais trouvé le premier avec beaucoup trop de défauts, mais là pour le coup. Vraiment un perfect de la part de Tarsier Studios. C'est, je crois, une trentaine d'euros.
Mmh, c'est
dispo
ça, ouais.
Dispo un peu partout. Tu le dis, ouais, c'est entre 6 et 8 heures. 6 heures si on trouve les énigmes rapidement. 8 heures si voilà. On galère un peu. Moi, j'ai notamment galéré à propos d'un objet à lancer sur un... Enfin bon, bref, c'est...
Ah oui, ok.
je suis resté, mais... tellement longtemps à ne pas savoir quoi faire, c'était...
C'est marrant, quoi. Tu vois, on parle de 6 à 8 heures, c'est dans une partie classique, mais tu peux buter, je crois que le premier, moi, j'avais séché sur certains passages, donc tu peux passer beaucoup plus de temps, en fait, potentiellement.
C'est, pour des trucs tout bêtes, parfois, ouais.
Ce temps moyen, il peut être complètement faussé par comment tu envisages une énigme, comment tu sèches sur un truc, enfin, ça arrive.
Ouais, alors, j'ai l'impression que pas tellement. C'est 6 et 8 heures, on donne quand même une énorme marge. Hein. D'accord. Je veux dire, plus 2 heures, sachant que le jeu n'est pas forcément... difficile, c'est pas un jeu qui est basé sur le skill à outrance.
Oui, mais c'est pas un jeu à speedrun, on est d'accord.
Voilà, c'est pas un jeu à speedrun.
c'est pas Ghosts and Goblins.
Ouais, voilà, je pense que 6 et 8 heures, on a la fourchette hausse, fourchette basse. Hein. C'est,
Ou après, c'est qu'il y a un souci, quoi.
Après, regardez les solutions YouTube, quoi. Enfin,
ah, mais c'est triste quand on... Ouais, c'est toujours triste quand on... Ouais, c'est toujours un peu triste.
Ouais. Little Nightmares 2, on va finir cette émission avec un jeu qui date un petit peu, qui est sorti, je crois, en 2019 sur PC, qui fait partie de la grande famille des Survivals. Tu vas nous en parler un peu plus. Ouais. Et on en parle pourquoi aujourd'hui ? Parce que fin janvier, il vient de débarquer sur PS4. Ça s'appelle Dying Young.
You're guilty when you drive.
Dying Young.
Non, c'est Dying Young en fait, c'est Dying Young.
Quoi?
Dying Young.
Non.
Bah si,
c'est vrai.
Si.
Eh oui, je crois que je te l'ai dit pendant l'intro.
Ouais, c'est Dying.
C'est vrai.
Young. Ouais.
Genre, j'ai dit le mauvais nom pendant tout ce temps-là. Mais quelle horreur.
C'est pas normal.
Ça va, tu l'as dit deux fois.
Fait, si tu veux.
Et ce ouais. Pouf. Bon, non, on va pas la refaire. D'ailleurs, je ne couperai pas ce passage. Dai Young, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, de toute façon, l'idée, c'est de mourir jeune. On est d'accord là-dessus.
Exactement.
Voilà.
Tu devines le fil rouge de ma semaine, Erwan, avec entre ça et Ghosts and Goblins. D'ailleurs, Ghosts and Goblins, hein, je vous ai même pas parlé des embranchements différents qu'on choisit lors des parties, du mode coop, l'art de compétence. Voilà. On pourrait revenir sur Ghosts and Goblins. Il y a beaucoup de choses à
dire. Mais pas du tout. Mais pas du tout. On va juste mourir jeune.
On enchaîne sur Dai Young, donc mourir jeune, voilà, tout est dans le titre. Hein. Alors moi, je vais vous dire franchement, je suis en manque d'espace ouvert, on en parle régulièrement. Moi, une invitation au voyage sur une île paradisiaque, je signe direct. Quand j'ai vu ce jeu arriver sur PS4, j'y suis allé, j'avais loupé complètement sur PC. C'est vrai qu'il n'a pas fait un bruit monumental, non. Donc l'arrivée sur console, c'est un bon moyen aussi de récupérer parfois des retards sur des titres qu'on n'a pas vu passer. Le pitch, on incarne une jeune femme qui se fait enlever sur une île paradisiaque de Méditerranée. On commence l'aventure au fond d'un puits, et puis le but, ça va être... Ah oui, non, mais voilà, je vous passe tout de suite le topo.
Une île paradisiaque, mais on est au fond d'un puits.
Ah bah oui, il y a une contrepartie. Hein. C'est vrai que les screens m'ont tout de suite alléché. T'as un vrai look à la Far Cry des grands jours, tu sais, avec le ciel bleu, les plages et tout ça. Mais bon, tu commences au fond d'un puits, t'es un petit peu abîmé. Et puis, on va retrouver donc, toute la bande de copains disparus. Spoiler, ils ne sont pas en très bon état. Ça s'est mal passé pour eux. Et puis, bah, le but ultime, j'y suis pas encore arrivé. Hein. Je suis transparent avec vous. Je suis en train d'y jouer en ce moment. J'ai quelques heures déjà de jeu, mais je n'ai pas encore réussi. Il faut s'échapper de l'île, évidemment. Donc, ça fait du bien. On est sur une vraie série B. Une vraie série B. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du triple A. On est sur un jeu à, je crois, 17 euros, hein, qui s'inscrit, comme tu disais, Erwan, dans ce genre qui est bien identifié maintenant. Hein. On parle de The Forest. On parle de Stranded Deep. Ce sont ces jeux en vue subjective de survie dans un monde ouvert où il faut survivre, il faut se débrouiller, il faut lutter.
Il y a un
jeu
dont il va falloir parler parce qu'il enchaîne les millions de ventes semaine après semaine. C'est Valheim qui
fait beaucoup parler.
Ah
oui, c'est du multi, je crois. Je disais, je crois qu'il est multi, non ? Si je dis pas de bêtises.
Ouais, Valheim est multi solo, enfin, mais plutôt multi, ouais.
Mais jusqu'à 10, hein. 10 joueurs. Ouais. Ouais.
Alors là, non, on est vraiment sur une expérience solo, pur jus, en fait. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'évidemment, j'en parlais, il y a plein de titres qui sont déjà positionnés sur cette catégorie survival, open world, etc. Alors, ce qui est intéressant sur celui-là, c'est son parti pris, plutôt original, de mixer plein de composantes différentes. Il essaie de faire plusieurs... C'est une sorte de patchwork. Alors, il compile. Alors, j'ai noté, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Dead Island. Alors, moi, ça me plaît, Dead Island. Je suis mon client, j'en ai déjà parlé. Far Cry, évidemment, pour le côté grande surface. Je crois qu'on est sur une île de 12 km carrés, donc il y a de quoi marcher, il y a de quoi explorer. Mirror's Edge, alors là c'est plus surprenant, c'est qu'on a beaucoup de parcours en fait, beaucoup de platforming comme ça sur en hauteur, et puis du Tomb Raider, mais clairement on a vraiment du Tomb Raider avec pas mal de configurations de plateformes, notamment dans les environnements genre bâtiments en ruine, etc. On a vraiment des séquences un peu à l'ancienne, rappelez-vous, il faut courir, il faut ragripper à une bordure qui est bien identifiée avec un code couleur, en gros, tu as une sorte de d'usure qui te montre que là tu peux sauter, t'accrocher, ouais, il y a un système blanche, de perception. Comme dans les derniers Tomb Raider avec le R3, c'est pour toi. Le R3 qui t'identifie les blocs où tu vas pouvoir t'accrocher. Donc, du vrai Tomb Raider, on a une sorte de patchwork comme ça, mais finalement, qui va vers une forme d'épure. C'est-à-dire qu'il fait le parti pris d'écarter. Moi, ce qui souvent me lasse dans cette catégorie The Forest et Stranded Deep, c'est ce que moi, je considère comme une sorte de plateau mou. Vous savez, c'est la fabrication de cabanes. C'est-à-dire qu'au début, dans le mode survie à te battre, parce qu'évidemment, tu arrives sur une île où il y a des fous furieux, tu as des méchants partout, il se passe des choses pas très catholiques sur l'île, donc là, t'es pris. Et puis souvent, dans ces jeux-là, tu as ce plateau où moi, je décroche souvent au bout de quelques heures, où de construction de cabane, où tu dois construire ta cabane, tu dois
ta
passer
cabane,
un ton
feu. Ton feu, ouais.
Et puis ça, où on accroche, où on n'accroche pas, où on est dans le trip, où on ne l'est pas. Moi, en général, je trouve que ça constitue une sorte de plateau qui est un peu indispensable à ces jeux-là, et moi, ça me saoule en général, parce que tu perds un peu du côté viscéral de la survie. Et ben, il n'y a pas de ça du tout ici. Là, on est vraiment plus dans une logique de Dead Island avec des points à éclaircir scénaristiques, des sortes de missions sur la carte. Et puis, même les signes vitaux, c'est un peu corollaire avec ces histoires de cabanes à monter. Il faut gérer en général 36 trucs vitaux avec la faim, la fatigue, dormir, pas dormir, machin. Tout ça, c'est balancé ici. Tu as une vague jauge d'eau et de nourriture, mais très basique, qui sont vraiment pas méchantes, sincèrement, pour mourir de soif, il faut le faire exprès. Tu peux gérer, c'est là, mais c'est vraiment en arrière-plan. Donc, vraiment pour se concentrer sur l'expérience de jeu, l'exploration, et ça je trouve que c'est intéressant, voilà, d'aller plutôt vers ce côté rentre dedans, action immédiate en fait, et ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on commence sur ce puits, on sort du puits évidemment, et puis là on a cet énorme monde ouvert, et ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il n'est pas linéaire, c'est-à-dire que tu arrives, alors moi j'ai passé beaucoup de temps à explorer, moi j'adore ça, c'est pour ça que j'aime ces jeux-là, en plus t'es sous un soleil écrasant, t'es sur une île en Méditerranée, tu te prends de la vitamine D, ça fait du bien, t'es content quoi, t'explores, et moi l'île est très bien fichue, je trouve qu'en termes de level design, tu sens qu'elle est vraiment, il y a eu un travail sur comment elle est fabriquée, t'as plein de raccoins, de passages, de trucs à découvrir, tu peux vraiment passer des heures, c'est ce que j'ai fait, à explorer l'endroit, à te l'accaparer, etc. Et ce qui est bien fichu, je trouve, c'est que, bon, évidemment, tu ouvres des carnets avec des objectifs à remplir, etc. Mais en fait, c'est très organique, c'est-à-dire que tu arrives et tu vas enclencher des différentes missions. Alors, ça fait aussi partie, tu peux être assommé un peu sous les différents trucs à lancer, c'est-à-dire que tu vas découvrir des anciens camarades qui sont morts, bah, ça va enclencher des missions, donc tu vas te retrouver avec plein de points différents à enclencher, mais tu les fais dans l'ordre que tu veux. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a presque une composante aventure. Alors, c'est un grand mot, hein, mais tu vas comprendre, tu as beaucoup de choses à lire. Alors d'ailleurs, c'est parfois écrit de façon manuscrite. Alors bon, c'est une bonne idée, ça rend bien, mais c'est pas toujours lisible, c'est fatigant. Bon voilà, c'est peut-être un vieux monsieur qui vous parle, mais c'est pas toujours très agréable à l'écran, je trouve. Mais il y a vraiment un côté aventure avec parfois une porte pour ouvrir. Eh bien, il va falloir aller chercher une clé qui est tenue dans une maison qu'il faut déjà retrouver géographiquement sur la carte. C'est que ça va vraiment ce côté repérage qu'on avait
parfois. Parce que t'as une boussole aussi, hein.
T'as une boussole, mais pareil, il faut la lire, c'est pas toujours évident, mais t'as une boussole, il faut te repérer, donc sur un écrit, on va te dire, il y a une maison où la clé a été protégée, donc t'y vas, tu te rends compte qu'elle est dans un chenil avec des chiens, il y a beaucoup d'animaux, on va en parler après, mais t'as un chien, donc pour la récupérer, je veux pas spoiler, mais bon, il faut trouver un moyen d'endormir le chien. Il y a vraiment un côté aventure, en fait, il y a une composante comme ça, et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas dans l'ordre, en fait, ça se fait de façon un peu, je pense que chaque partie, il prend à la manière dont tu vas enclencher les différents objectifs dans l'ordre que tu le veux. Et ça, c'est pas mal foutu. Il y a une sorte de jeu de piste qui se met en place. Vue subjective, École The Forest and Co. Donc, tu as une vraie body awareness qui est là, qui est vraiment poussée au maximum. C'est-à-dire que tu vois vraiment ton corps s'abîmer selon ce qui se passe. Tu as beaucoup de, évidemment, d'exploration. Tu escalades pas mal de choses, tu cours pas mal. Et avec ce point vertige qui peut être atteint. Et ça, je trouve que c'est une réussite aussi. C'est ce moment où la body awareness, où tu vois tes jambes, tes pieds, etc., qui s'abîment. Et puis, tu arrives sur des moments vraiment de tendus en termes de, tu vois, d'appréhension, de trucs en hauteur. Et tu as ce moment de vertige où tu peux te dire, ah ouais, tiens, oula, c'est tendu quand même. Tu vois, et ça, c'est une réussite. Tu vois, quand un jeu arrive à te donner cette sensation d'être en hauteur, je trouve qu'il réussit ça. Donc, il faut adhérer. Il y a un parti pris semi-réaliste d'open world narratif organique. Alors, je ne vous parle pas d'une grande narration avec une histoire. Non, c'est brut de décoffrage. Les méchants sont des méchants. Tu devines qu'il y a des choses pas très nettes qui se passent. Mais bon, tu explores. Mais vraiment, je trouve qu'il y a un parti pris presque géographique à fond sur le côté open world, à explorer soi-même et à enclencher les objectifs. Vraiment,
comme tu l'as dit au départ, on est quand même, on est quand même sur une série B.
Ah mais complètement.
Ah oui, au vu des images, ça saute aussi.
On n'est pas sur un jeu à 60 balles. Attention, il faut bien le préciser.
Parce que moi, je suis sorti du puits.
C'est déjà un bon début, vaut mieux. Hein, parce que...
Je suis sorti du puits, j'ai allumé mon feu, j'ai trouvé un bâton.
Alors le feu, c'est pour sauvegarder. Ouais.
J'ai trouvé de l'eau, parce que c'est ton premier objectif. Et après, j'ai vu deux mecs.
Ouais, des méchants, il faut attendre.
Les méchants, tu sais que c'est des méchants parce qu'ils ont des masques.
Ils ont des têtes de méchants, bien sûr.
Ils ont des masques de Jason, donc.
Ah, de hockey,
Ah oui, voilà.
Les bruitages sont ouf.
C'est un peu low cost quand même. Hein.
C'est sur Brine Bouche.
Oui, on est sur une série B, c'est genre la VHS que tu as louée au fin fond de ton vidéoclub et tu sais très bien ce que c'est.
Ça fait partie du charme, j'ai l'impression.
Il y a un vrai truc de revenge movie. Tu commences, t'es une victime. Hein, la nana, elle arrive, elle a rien sur elle, elle sait pas trop se battre. Tu arrives, comme tu dis, tu as un bâton. Et puis, passé quelques heures, tu vas trouver de quoi maraver les méchants. Et puis finalement, tu sais, genre Rambo, quoi, tu retournes le truc. C'est-à-dire que peu à peu, tu vas non seulement t'approprier l'espace, mais tu sens que tu vas pouvoir en répondre aussi. Et tu as une sorte de basculement à un moment, mais ça, c'est propre à ces jeux-là. Et je trouve que là, c'est bien mis en scène où tu commences à pouvoir répliquer, tu vas te défendre. Tu optimises aussi ton équipement, tu t'endurcis. Et finalement, la petite nana du début, elle peut commencer à se défendre. Et il y a vraiment un switch, moi, j'ai ressenti au bout de quelques heures où tu commences à être mieux équipé. Tu te dis, bon, attendez, si je vous croise, je vais plus me cacher dans les tournesols, parce que ça, c'est une scène qui est récurrente. Tu te planques dans les tournesols sol avec le grand méchant qui te tourne après. Bon, lui, il est vraiment armé, il faut s'en méfier. Mais les petits gus là, qui jouent les malins au début, tu retournes, les voir après.
Ah, tu peux te battre vraiment, quoi, contre eux.
Tu trouves des armes, ça prend du temps, mais tu t'équipes et il y a vraiment un retournement du jeu à ce moment-là. Avec, je voulais dire rapidement, mais il y a un vrai côté parcours, hein, vraiment de plateforme en hauteur. Et tu as ce stress des Tomb Raider de l'époque. Non seulement tu te prends une barre de chargement longue, que tu n'as pas envie de te taper déjà, donc ça déjà c'est un enjeu comme dans les Tomb Raider à l'ancienne, mais tu n'as pas envie de perdre parce que si tu tombes, tu peux perdre ton amélioration, des objets que tu viens de trouver, le système de sauvegarde il est un peu roots, donc tu n'as pas envie de perdre, tu n'as pas envie de tomber, et je pense que ça joue sur ce côté aussi, tu vois, peur des hauteurs et des certaines séquences de plateforme un peu tendues. Donc il y a à la fois la géographie que tu appréhendes, les endroits qui sont plutôt bien foutus, il y a un design crasse-pouille en même temps chaleureux, il y a vraiment quelque chose de bien fichu. Moi je trouve que c'est à voir, je pense que c'est intéressant. Après, il y a pas mal de défauts, évidemment. Il y a beaucoup d'animaux, mais des animaux chelous.
J'adore à Tomb Raider aussi, quoi. Parce que je regardais les images,
c'est pire, Julie.
Sérieux?
Non, c'est pire. T'as des lapins chelous, mais il faut y jouer. Il faut y jouer parce que t'as des chèvres, t'as des lapins, bon, t'as des chiens méchants, t'es obligé de te battre avec des chiens, je valide jamais trop ça, mais bon, c'est un jeu, ça fait partie du truc, mais t'as des lapins chelous, des fois tu te mets à courir, t'as 3-4 lapins qui courent avec toi, c'en est comique, t'as des moments c'est de l'humour un peu non volontaire, je pense. T'as une faune et d'animaux chelous qui des fois sont surprenants, mais bon, c'est de la série B, pur jus, bon sang, on sait ce qu'on prend, on y a le droit.
C'est le genre de jeu qui m'étonne. En fait, c'est le genre de jeu dont je ne cesse de m'étonner de leur existence, en fait.
Ils sont bien aussi, c'est précieux
pour faire un jeu comme ça, c'est quand même une... Enfin, c'est quand même un jeu très ambitieux.
Il y a du travail, même visuellement, il tape bien. Hein. C'est Unreal 4, je crois.
Sauf que le step pour en faire un jeu à la hauteur de son ambition, c'est tu sens qu'il faut, il faut 50 millions d'euros de plus, tu vois. C'est,
Oui, bah, c'est pas un Far Cry, on est d'accord. Même si je pense qu'il y a des choses à retirer.
Et il y a ce côté... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce côté low cost.
Ah, mais dans les menus, c'est flagrant. C'est là où vraiment tu vois dans les menus, dans... Mais c'est du low cost. Ça fait vraiment à la limite amateur parfois, ça c'est clair.
Je trouve que c'est super étonnant d'avoir ce côté low cost dans un jeu open world, tout ça. Enfin, et du coup, il y a un résultat qui est ultra bancal.
Très mal fichu, qui a pas de défaut.
Moi, qui m'a un peu rebuté, hein, on va pas se mentir.
Je comprends. Mais moi, ouais, j'ai besoin d'open world, j'en ai besoin en ce moment, on va pas revenir là-dessus, ça m'a fait un bien fou. Alors, je me suis accroché aussi.
En même temps, à t'entendre parler, ça me donne presque envie d'y retourner, parce que...
Et retourne, et regarde la faune, regarde, c'est fabuleux.
Je me suis fait attaquer par des rats, j'ai pas aimé. Hein, mais,
alors, attends, après, je comprends tout à fait. Alors, ça, c'est le bon point de vue, c'est... Effectivement, ce côté un peu organique d'une narration que tu enclenches un peu à ta manière. Alors attention, c'est aussi clivant, ça que t'arrives. T'es pas du tout pris par la main. Il te responsabilise un peu. Si tu rentres pas dans le jus, c'est foutu. Première heure, elle peut être complètement déstabilisante parce que tu sais pas où tu vas. T'as un menu de choses à faire, clair.
C'est cette heure-là que j'ai joué, ouais.
Et mon Dieu, la map sur PS4, elle est buggée, la map. J'arrive jamais à me retrouver. Alors, je sais pas si ça va être patché. Peut-être que sur Steam, c'est pas... J'en sais rien. Moi, sur PS4, c'est...
La map par écran.
Elle est affreuse, la map.
Elle est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois... Je t'explique, Julie, pour que tu comprennes. Ouais. C'est, t'as une map, c'est un carré.
Oui, c'est
ça. Et en fait, pour voir ce qu'il y a en dehors du carré, eh ben, il faut que tu ailles sur le bord du carré.
Mais j'y arrive
pas. Okay.
Et là, tu passes dans un écran suivant de la map.
C'est insupportable.
Ah d'accord, t'as jamais une vue d'ensemble, quoi.
T'as jamais... Enfin, c'est l'angoisse. Très étonnant. Ah oui, c'est très...
Non, ouais, c'est difficile. Alors, je sais pas, j'ai pas réussi à la régler. Peut-être que j'ai pas trouvé le bouton magique, j'en sais rien. Mais sur PS4, c'est une infamie, la map. J'espère que ça va être rectifié. Et c'est dommage parce qu'elle est importante, la carte, sur un open world en général.
Bah, oui,
toi, tu joues. Par contre, t'as un ressenti. Parce que tu fais tout à pied, t'as pas de bagnole, t'as pas de trucs comme ça. Tu fais tout à pied, tu tapes des fois des kilomètres de marche. Et il y a un côté roleplay, vraiment, et de sensation de marche fatigante, tu vois, quand tu tapes des kilomètres dans les tournesols. En tout cas, il a un truc de ressenti physique. Je parlais du body awareness. Quand tu vois vraiment ton corps, tu ressens quelque chose de quasi physique. La menace des ennemis est là aussi. Il y a vraiment, moi, je le verrais bien en VR, ce jeu, mais bon, c'est un autre point de vue. En tout cas, il a quelque chose. Moi, je trouve qu'il y a une proposition. Si vous êtes en manque d'open world ensoleillé en ce moment, je crois qu'on est tous un peu dans ce cas-là, allez-y, c'est pas Far Cry, c'est pas Assassin's Creed, on est bien d'accord, mais il y a un truc.
Ça s'appelle, et je vais pas me planter cette fois-ci,
Die Young, meurt jeune, quoi.
Bien joué.
Au moins, elle est sortie initiale 2017, hein, donc c'est un jeu qui...
Ah ouais,
quand tu regardes, il y a une communauté qui le suit, ce jeu, en fait. Il a une bonne cote. J'ai regardé sur Steam, il y a pas mal de bons commentaires. Les gens ont saisi ce qu'il avait comme proposition originale. Et du coup, le fait qu'il arrive sur une console, c'est pas rien. Ça va peut-être ouvrir un petit peu son public. Sachez où vous mettez les pieds. Hein, c'est pas forcément Disneyland, mais il y a un truc en...
Disneyland avec des lapins chelous, quoi.
Ah, mais regardez la faune, c'est fascinant. L'IA est mal foutue, ils te suivent, des fois, après, ils s'en vont. T'as 4-5 lapins ensemble. Moi, j'étais fasciné, hein, plus que de raison, j'aurais peut-être pas dû, mais les chèvres aussi, enfin, c'est très bizarre. Voilà.
Après, j'ai une sensation de gigantisme à t'entendre parler, enfin, oui, l'idée d'un open world, ouais, accélère immense, des kilomètres dans la chambre tournesol. Mais ce que je regardais quand même, ouais, c'est que sur A Long To Beat, on est sur 15 heures environ, quoi.
Ouais, bah moi j'en suis pas loin, mais je joue très mal. Je prends beaucoup de temps à explorer.
Ouais, en même temps tu voulais un open world, donc
je grind les palmiers. Mon perso, je joue très mal. Enfin, tu vois, j'ai tendance à farfouiller partout. Et encore une fois, je trouve que le design de l'île est bien fichu. Elle a vraiment une personnalité, que des bâtiments que tu explores, avec du coup des séquences d'exploration de maisons en ruine. Avec ouais, vraiment, il y a des réussites. Voilà.
C'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo. Merci à tous les deux, c'était cool. On est mort souvent, jeunes, dans des cauchemars.
C'est ça. Bien. Ouais, c'était très cohérent.
C'était très cohérent. Tout ceci était... Il y avait une ligne éditoriale dans cette émission. Oui, on n'a pas parlé des morts, hein, dans Little Nightmares 2, d'ailleurs, parce qu'on meurt aussi quand même.
Assez
souvent. Eh bien, c'est l'heure de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Julie?
Bah alors moi, j'avais un peu envie de sortir de...
De chez toi ? Non.
Non, malheureusement, je ne peux pas. Mais en tout cas, de toute l'imagerie glauque à laquelle je suis souvent confrontée à force de jouer à des jeux d'horreur, mais en même temps, je le réclame, hein, donc c'est normal. Je me suis maté une petite comédie romantique de science-fiction qui s'appelle Palm Springs. C'est sorti en 2020. Et donc, c'est un film de Max Barbaco, que je ne connaissais pas auparavant, qui met en scène Andy Samberg, donc qu'on connaît pour jouer Jack Peralta dans Brooklyn Nine-Nine, pour faire partie des Lonely Island, et Christine Milioti, qui, elle, on connaît pour jouer la mère dans Why I Met Your Mother, et aussi la première fan de DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, notamment, quoi. Et donc, en gros, c'est l'histoire de deux personnes qui se retrouvent coincées dans une boucle temporelle lors d'un soir de mariage. Ce qui est intéressant, c'est parce que moi, je m'étais dit, bon, encore un film avec une boucle temporelle. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que le film part du principe que le spectateur connaît déjà en fait ce qu'est une boucle temporelle, parce qu'il a déjà vu Un jour sans fin, il a potentiellement vu Edge of Tomorrow et Happy Death Day. Enfin, il y a plein d'autres exemples, mais
du coup,
c'est un sous-genre bien délimité.
Bah c'est ça, ouais, c'est comme les oiseaux sur les fils électriques. Enfin, on en a vu plein.
On en verra encore plein.
Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que ça prend complètement le contre-pied de tout ça, parce que on arrive et le personnage est déjà dans la boucle temporelle. On n'a pas toute la phase découverte. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tiens, je passe la même journée. Lui, il y est, et ça fait un petit moment qu'il est dans cette boucle temporelle. Et en fait, il y a un autre personnage qui va venir avec lui dans cette boucle, qui lui va avoir la phase découverte, mais en même temps avec une personne déjà initiée. Et c'est franchement sympathique. Ouais, même l'histoire d'amour m'a touchée. Je trouvais ça très intéressant. En fait, le côté on assume, c'est une boucle temporelle, c'est comme ça. Et en fait, eux, ils vivent de manière complètement décomplexée, en fait, parce que pour eux, rien n'a d'enjeu, quoi.
Ils jouent avec ça, en fait. Ils se jouent du concept même de
boucle. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. Et c'est intéressant, ce petit twist, en fait, de il y a moyen d'emmener des gens dans la boucle temporelle potentiellement, quoi. Voilà.
Aurait aimé ça.
Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais, là, on va pas les voir faire des statues de glace et apprendre à Rachmaninoff. Là, c'est vraiment, on s'amuse. Voilà, parce que demain n'existe pas. Et ça, c'est sympa, ouais. Palm Springs, pardon, excusez-moi.
Moi, les amis, je suis turbo chaud pour le prochain film Mortal Kombat. Il y a la bande-annonce qui est tombée. On parlait des adaptations film, et donc je suis turbo chaud. Je me suis refait évidemment le film avec Lambert, que je me refais régulièrement. C'est un de mes doudous. Alors, nouveauté, j'ai découvert enfin, un peu sur le tard, un animé en fait, qui s'appelle Mortal Kombat Scorpion Legends. Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge. Voilà, ça c'est le nom complet, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors c'est intéressant, c'est une déclinaison donc qui met donc Scorpion en rôle principal. Donc comme ça, il n'y a plus de jaloux, puisque Sub-Zero avait eu son propre jeu à lui avec Sub-Zero Mythologies. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, un jeu de plateforme pas très bien fichu, mais bon voilà, chacun a son excroissance comme ça narrative. C'est une super découverte. J'en attendais pas grand-chose, très franchement. C'est assez surprenant parce qu'en fait, tu as un look un peu faux rétro 50s, comment dire, un peu les derniers Scooby-Doo. Erwan, je sais que tu as suivi les derniers Scooby-Doo avec le look un peu carré, tu vois ce que je veux dire, un peu faussement rétro. Tu commences là-dessus, tu dis bon, ok, et ça part dans des scènes de gore total. C'est-à-dire que ce film, donc une heure et un quart, il a complètement intégré la facette gore de Mortal Kombat qui avait été quand même mise en sommeil dans tout ce qui était film, série télé, je vous passe sous les détails, ça avait été quand même mis sous le tapis. Là, il y va franchement, et on a tous les détails, on a les séquences en X-ray cam, rappelez-vous les trucs de radiologie quand les mâchoires se brisent. C'est d'un gore, mais c'est vraiment surprenant, c'est que dès les premières minutes, tu dis oula, dans quoi je suis tombé là. T'as des membres coupés, t'as des arrachages comme dans le premier Mortal Kombat de vertèbres, etc. C'est très surprenant. C'est-à-dire que t'as un look un peu dessin animé. D'ailleurs, il vaut mieux prévenir, c'est que c'est un look friendly comme ça, un peu gentil, mais pas du tout. C'est d'un gore. Mais j'ai été surpris. Vraiment, j'étais surpris. Donc les X-ray cam avec la vision, etc. Des scènes, mais vraiment de découpage de personnages. Et puis le scénario est pas mal parce que ça nous replace Scorpion, donc ce fantôme, ce revenant. On voit son origin story. C'est plutôt poignant. C'est plutôt poignant parce qu'on sait qu'il a vu sa famille se faire trucider devant lui. Et par contre, là, on a tous les détails vraiment à l'écran. Ça rentre vraiment dans les détails quand je vous dis on a pas mal de choses à l'écran. Donc, on comprend sa quête de se venger de Sub-Zero. Voilà. Bon, c'est assez touchant. Bon, après, moi, je suis bon public. Le scénario est bien fichu parce que donc, on a l'angle de Scorpion qui est principal, mais c'est les événements du premier tournoi de Mortal Kombat 1 sur l'île avec tous les combattants qui arrivent pour le 10e tournoi qui doit décider si l'outre-monde doit débouler sur Terre. Enfin bon, vous connaissez tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'on a donc les événements de MK1, mais on a aussi d'autres personnages qui arrivent plus tard, comme Quan Chi ou Jax. Jax qui a un rôle, et on voit pourquoi il a des bras en métallique. On le voit et ça fait mal à l'écran, c'est terrible. Donc vraiment, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'avec ce DA qui n'a pas forcément fait beaucoup de bruit, eh ben, j'ai retrouvé ce côté transgressif de Mortal Kombat des premiers temps, des premières années. Rappelez-vous, on jouait à Mortal Kombat un peu sous le coude, en disant, regarde, c'est le truc, tu vois, c'est gore, c'est trash, on arrache les colonnes vertébrales. C'était ça, les premiers Mortal Kombat. Et ben là, dans ce dessin animé, eh ben, on retrouve tout ça. Donc,
Et je rappelle quand même que à l'époque, parce que c'est quand même un grand souvenir, et ben il y avait pas YouTube, et donc pour voir toutes les fatalities, et ben il fallait les faire. Il y avait des codes à la con, mais
ça allait encore, mais oui, à partir de Mortal Kombat 2 où t'as tous les trucs à débloquer, c'était
alors, mais pour les voir, c'était vraiment un des objectifs du jeu. T'achetais le jeu pour avoir les fatalities.
C'était le jeu dans le jeu, ouais. Bien sûr, c'était de débloquer tous les. C'était souvent trash, quoi. Ouais. Notamment le premier, moi, c'est vraiment le premier où je me rappelle de l'arrachage de colonnes, le cœur, enfin, je sais plus, il y avait plein de. En tout cas, on retrouve tout ça et c'est surprenant, vraiment. Moi, je le conseille, mais à public, vraiment, public.
Averti
parce que ça pique quand même pas mal, vraiment. Mais c'est surprenant. J'espère que ça annonce peut-être des choses dans le prochain film qui a l'air d'être pas mal plus sombre aussi, mais ça pourra pas égaler ce qu'on a là. Hein. Le dessin animé te permet des choses à l'écran que tu peux pas imaginer autrement.
Il y a une distanciation.
Complètement.
C'était une question qui s'était posée aussi sur les fatalities des Mortal Kombat actuels, en fait, où il y a ce côté ultra réaliste qui fait que c'est beaucoup plus dérangeant. Et il y avait eu tous les développeurs qui souffraient de stress post-traumatique à force de se documenter pour faire ces cinématiques de fatalities.
C'est vrai qu'elles allaient assez loin sur les dernières, où tu as des trucs sur la peau, les machins, des trucs. Mais en tout cas, c'est surprenant. Vraiment, le cocktail dessin animé et puis ça avec, c'est... En tout cas, c'est réussi. Pour moi, c'est réussi, c'est validé. Hein, mais... averti.
Bon, alors moi, pour ma part, je ne vais pas trop vous parler de... Enfin, parce que j'ai presque un peu honte, tu vois, c'est le genre de truc où...
Mais non,
j'avais parlé il y a quelques mois de The Queen Gambit, hein, qui était donc cette série Netflix, et évidemment, bah, comme tout le monde, tu vois, je me suis remis, parce qu'en fait, j'avais eu une grosse vague de jeux d'échecs. Alors, je me rappelle, hein, j'étais à Libé déjà, donc c'était où je m'y étais remis. Je pense que c'était en 2002-2003 où je m'étais mis à jouer pas mal aux échecs. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, l'équipe web de Libé, il y avait des gros champions d'échecs.
Des gros
en fait, il y avait des gros, gros joueurs. Il y avait, on avait un collègue qui avait, à l'époque, je me rappelle, un de ces trucs, il avait obtenu un nul dans un multi contre Kramnik, Kramnik qui était un grand champion qui jouait contre je sais plus 10 ou 15 personnes en même temps, et j'avais un collègue qui avait obtenu un nul contre un champion du monde à l'époque. Pour vous dire que j'ai eu une époque jeu d'échecs où moi j'étais pas bon du tout, hein. Par contre, eux, il y avait des bons, mais moi, je l'étais pas, mais je jouais et j'essayais d'apprendre les ouvertures et tout ça, et puis après, j'ai laissé tomber. Et évidemment, ça a mis longtemps, hein. C'est-à-dire qu'après avoir vu The Queen Gambit, je m'y suis pas remis tout de suite, mais le truc a petit à petit, il y a une sorte d'envie comme ça de qui a regermé, et du coup je suis nul,
j'allais demander quel est ton score.
Non, je suis vraiment pas bon, mais parce qu'en fait là j'ai pas réappris les ouvertures, donc je suis encore avec des espèces de vieux souvenirs très très lointains, mais c'est rigolo, enfin tu vois, je suis allé sur chess.com, je suis ouvert un compte et je fais des parties et je suis vraiment pas bon, en fait. Je me rends compte que je fais... Et maintenant, en fait, t'as des trucs pour analyser tes parties. Et moi, je fais ce qu'en anglais, ils appellent des blunders, je crois. Des gaffes. Tu sais, en fait, ils analysent tes parties et tu as fait des gaffes. Oui, d'accord, bon, ça va, j'ai perdu ma dame.
Après,
oui, je sais.
C'est pas dans une optique performative, tu fais ça pour t'amuser, quoi.
Il faut que je retrouve, j'ai un Mortal Kombat avec un mode chess combat. Je crois que c'est la version PSP où t'as un jeu d'échecs avec les persos Mortal Kombat. C'est un peu la classe ultime. Donc, faut que
et par contre, si tu fais une gaffe, tu te fais arracher la colonne vertébrale.
Bah, bien sûr, t'as les ça.
Oh la vache.
Mais bon, c'est rigolo. Bon, après, en plus, là-dessus, c'est vrai qu'avoir un fils de 8 ans qui commence à regarder ça, c'est assez marrant. Il y a le côté où j'ai presque envie de réapprendre avec lui. Mais bon, bref. Non, je parlerai juste aussi. On est tombé un peu par hasard, même complètement par hasard, sur Netflix, sur une mini-série qui s'appelle Mon ami Adèle. Alors, est-ce que je la conseille ou pas? Je sais pas trop. Non, mais on est arrivé au bout sans problème. C'est-à-dire que un épisode par soir, ça marche super bien. Enfin, il y a pas de problème. C'est très psy. C'est un truc de mal. Enfin, voilà. Tu sens qu'il y a du fantastique à un moment, mais c'est une sorte de tension psychologique comme ça, avec plein de mystères et tout. Et en fait, juste un truc que je le conseillais, c'est que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas vu un truc autour d'un twist final. C'est un peu à cette grande mode qu'il y avait au tournant des années 2000 de ces films avec le twist final, voilà. Avec voilà, le Usual Suspect, Seven, machin, enfin, ouais. Tous ces trucs-là, Fight Club, enfin bon, bref, t'en avais masse de trucs où il y avait ce machin. Et là, t'as une série qui est basée là-dessus et c'est super cool. Alors, je viens même pas de spoiler un truc en disant ouais, c'est un truc avec un twist final. C'est juste que t'as tout un scénario qui se tient bien et qui tourne autour de ça. Et du coup, ça, voilà, rien que pour ça, c'était un vrai plaisir. Bon, après, il faut se taper 6 épisodes pour y arriver, mais c'est. Voilà,
ah, mais ça en vaut la peine. Bon,
ouais,
je note.
Je sais pas. C'était, pour le coup, j'ai trouvé ça hyper satisfaisant, en fait, à la fin. Mais, okay. Voilà. Mais elle doit avoir plein de défauts que j'ai pas vus. Mais il y en a, hein, mais le coup est très agréable. Je vais passer un bon moment, en tout cas. Voilà, ça s'appelle Mon ami Adèle. C'est sur Netflix. Eh ben, merci encore. Merci encore. Et merci. Cette fois-ci, pas de vacances. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao.
Bye bye.
Salut.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.